Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
On en jase, ton émission du midi sur les ondes de Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin, Pascal CV. Aujourd'hui, 11 novembre, jour du souvenir. Pascal CV, comment vas-tu?
Ça va très bien. Je trouve cette journée-là tellement importante.
Vraiment?
La souligner, là, c'est pas peu dire que c'est essentiel.
C'est très essentiel de souligner cette belle journée du souvenir. Moi, tu savais que mon grand-père a fait la guerre de Corée.
Sérieux?
Oui, mon grand-père a fait la guerre de Corée. Il a même été atteint d'un éclat d'obus. Il était brûlé sur le côté du corps.
J'avais aucune idée. Est-ce qu'il est encore en vie?
Non, malheureusement, il est décédé. J'avais 4 ans, imagine-toi.
Ok, t'étais tout petit.
Fait 42 ans.
As-tu
qu'il est décédé.
Des histoires de ça? T'as-tu
pu pas vraiment. Ouais, ma mère m'a pas vraiment raconté d'histoire en tant que telle. Bon, malheureusement, il est décédé d'une crise cardiaque avec 58 ans. Il faut dire qu'à l'époque, les maladies cardiaques n'étaient pas aussi avancées scientifiquement.
Là. Absolument. L'espérance de vie n'était pas la même aussi.
Non.
Mais je sais, puis tu sais, au 88-971-1021, si vous voulez écrire déjà, tantôt on va en parler, mm-hmm. puis on va souligner ce jour du souvenir-là.
Ouais.
Mais c'est difficile d'avoir beaucoup d'histoires parce qu'il y en a plusieurs, des soldats qui reviennent avec certains traumatismes, gardent ça à l'intérieur. Mais en même temps, c'est tellement riche d'avoir ces histoires-là pour savoir ce qui se passait, à quoi s'attendre, etc., puis se commémorer le courage qu'ils ont eu là, en fait, pour défendre la patrie.
Ah, clairement, ma grand-mère gardait précieusement toutes ses médailles militaires. Mmh. Donc, on regardait ça. Mon grand-père, je m'en rappelle parce que j'écoutais la lutte le dimanche matin avec lui. À la semaine prochaine,
c'était votre
si Dieu
moment
le veut.
Émotif.
Ouais, exactement, c'était le moment avec mon grand-père. Pascal, elle est à l'extérieur aujourd'hui. On la rejoint par Zoom. On va passer immédiatement au...
Le caucus. Le caucus.
102-1.
Voici Antonin Iaccarini.
Pascal CV, check bien ça, OK? Je vais être meilleur qu'Antonin. T'es-tu prête?
OK, vas-y. Je te trouve avec tout un challenge ce matin.
Ben, mais ça, parce que là, Anto, elle m'écrit un matin et elle me dit moi, je sais où Éric Duhaime va se présenter aux prochaines élections provinciales.
Oh!
Là, j'ai dit voyons. J'ai dit voyons, dans Anto, c'est facile. Elle demandait à l'émission d'Éric Kerr pendant 2 ans de temps dans le scandale satellite. Éric Kerr est dans la pelleterie. La Rive-Nord, ça va appartenir au Parti conservateur du Québec. Fait qu'en tout, c'est réglé, t'as pas besoin de m'en parler, c'est la pelleterie.
OK, fait que tu veux pas savoir mon gossip politique aujourd'hui.
Ben, comment ça sera pas pelleterie?
Ben, peut-être. Honnêtement, Jeff, ça se peut. On pourrait ouvrir les paris puis gager genre une pièce. Sauf que effectivement, Éric Duhaime est en train de magasiner son comté pour 2026. Après... Fait que c'est pas vrai que c'est coulé dans le béton puis c'est la pelleterie nécessairement, là.
Après avoir magasiné Artabasca puis que ça n'a pas fonctionné. Mais dis-moi donc, il s'en irait où s'il va pas à la pelleterie?
Ben, écoute, si tu te fies au site d'agrégation de sondages et de projection de victoire électorale Québec 125, il y a quand même quelques choix, hein, parce que Québec 125 donne quelques comtés à Éric Duhaime dans la région de Québec, mais aussi dans Chaudière-Appalaches.
Ah,
c'est un terreau assez fertile aussi.
Sud. Il va s'en aller en Beauce?
Ben, écoute. T'sais, avant qu'il décide de se présenter dans Artabasca, moi, je pense qu'Éric Duhaime voulait se présenter, puis là, on spécule, là, c'est pas lui qui m'a dit ça, là. Se présenter dans la région de Québec, notamment parce qu'il vit dans la région de Québec, puis c'est peu normal, puis que la région de Québec est quand même un terreau fertile, surtout dans les banlieues, pour le Parti conservateur. Mais on pensait aussi qu'Artabasca, ce serait un terreau fertile, puis ça s'est pas exactement passé comme prévu.
Ouais,
donc,
mais là,
moi, j'ai l'impression...
Il a fait face au petit gars de Saint-Fern, là.
Ben, écoute, c'était pas gagné d'avance pour le PQ. Le PQ qui gagne dans Tabasco, là, je me rappelle plus dans quelle année ça datait, là, mais ça commençait à faire longtemps. Donc, on pensait, honnêtement, on était plusieurs à penser qu'Éric Duhaime allait remporter Tabasco. Puis je pense que ça lui a donné un petit choc. Et ça ne lui tente pas vraiment de prendre une chance pour 2026. On est d'accord?
On est d'accord. Mais Antonine, est-ce qu'il pourrait se ramasser à être dans le même comté que Bernard Drainville, son ancien acolyte radio, son collègue avec qui, parce que Bernard Drainville est dans Lévis pour la CAQ, dans Chaudière-Appalaches, c'est la région administrative quasiment, pour Chaudière-Appalaches, Lévis. Ça se pourrait-tu?
Écoute, moi, je vais mettre ma pièce sur Bellechasse.
Okay.
Parce que je pense que ce serait vraiment une bonne circonscription pour Éric Duhaime. Puis aussi parce que l'ancien candidat du Parti conservateur du Québec dans la circonscription, Michel Tardy, a donné une entrevue parce qu'Éric Duhaime s'était promené un peu dans la région. Puis il y a un journaliste qui a posé la question, « Monsieur Tardy, est-ce que vous allez vous présenter à la prochaine campagne électorale en 2026? » Puis il a dit, « Oh, je ne sais pas encore, parce qu'il dit, ça se peut que je laisse ma place à un gros nom. »
Oh, 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 oh! Donc là, ça sonne Éric Duhaime, gros nom du Parti conservateur.
Ben là, Sinon, qui? T'sais, je veux dire, en connaissez-vous beaucoup des gros noms qui pourraient aller se présenter dans Bellechasse? Évidemment, il y a toujours des maires mairesses. On a vu d'ailleurs qu'Olivier Dumais, le maire
Ben
de
oui.
Saint-Lambert-de-Lauzon, pardon, là, qui ne
Exactement.
fermait pas la porte. Mais un gros nom pour moi, c'est Éric Duhaime, là. Fait que voilà, c'était mon petit mémérage politique. Les paris sont ouverts. Fait que Jeff, toi, c'est la pelleterie. Moi, j'ai misé sur Bellechasse. Pascal?
Ben, moi, c'est plus une envie de voir ce combat politique-là,
Ça sera
honnêtement,
bon.
Pour les avoir connus à la radio puis avoir travaillé, tu sais, veux pas, autour d'eux, là, pour la même station à ce moment-là. Pas que je pense que ça va être là, et j'aimerais que ce soit à Lévis.
OK, c'est
Bon.
noté. Fait que les paris sont ouverts. À suivre.
Excellent, les paris sont ouverts. À suivre. Hey, t'en penses quoi de ces maires et mairesses-là, là, t'sais, qui ont été élus, puis un an plus tard, ils vont dire hey, je m'en vais, moi, briguer un poste de député au provincial, parce que honnêtement, Olivier Dumais, il n'a pas été habile là-dedans. Là.
Écoute, j'en pense beaucoup de mal. Pas du monsieur personnellement, mais du fait que des gens se présentent dans une campagne électorale avec nullement l'intention de terminer son mandat. À ne pas faire. C'est un manque de respect. T'sais, même si tu dis, ben oui, mais je vais servir les mêmes citoyens, OK, mais c'est parce que créer des élections partielles pour le plaisir, là, non. OK, puis à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de profiter de toutes les occasions pour avoir un job en politique. Moi, je pense que quand tu te présentes dans une campagne électorale, c'est pour terminer ton mandat. Il y a des
Oui.
exceptions qui arrivent dans la vie, c'est correct, mais si tu n'as aucunement l'intention de finir ton mandat, là, il y a un tabarouette de problèmes.
Oui, exactement. J'espère honnêtement que ceux qui vont faire ça vont être battus comme André Laforêt était battu au Saguenay. Pour de vrai.
Effectivement.
Puis je veux pas de mal à personne, mais c'est juste que je trouve ça très antidémocratique de se présenter à la mairie d'une ville en sachant très bien que je veux me présenter comme député
Ouais.
un an plus tard.
Ah oui, puis c'est une
Bah,
vocation à être
pareil.
politicien. Je pense que ça se doit d'avoir du respect envers les électeurs, puis ça devrait être la priorité, là.
Antonine, ça bouge au bout avec la STM. Là, la mairesse vient d'écrire, hey, on n'est pas loin d'un accord. Faudrait juste que la STM bouge encore un peu. Coudonc, ça fonctionne quand on met de la pression sur les syndicats en disant, on va vous faire une petite loi, les amis?
Oui, ça leur tente pas trop hein, de se faire coller une loi. Puis c'est d'ailleurs jamais vraiment l'idéal que des conditions de travail soient fixées comme ça, puis que le gouvernement intervienne, puis c'est à éviter le plus possible. Mais là, je pense que tout le monde est à bout de patience, les Montréalais au premier abord, là. Le transport collectif à Montréal, ce n'est pas un luxe, c'est un service essentiel. Et on a une loi qui a été passée il y a quelque temps qui élargit la notion de service essentiel. Le seul problème, c'est qu'elle entrait en vigueur à la fin du mois. On a l'impression que les syndicats qui représentent les travailleurs de la STM voulaient là, en profiter jusqu'à la dernière goutte. Et là, la mairesse aujourd'hui, là, qui, je pense, doit être un peu contente que le gouvernement prenne un peu le bâton et puis joue le bad cop présentement. Comme ça, elle peut jouer le bon cop et dire, regardez, là, je pense que tout le monde peut s'entendre. Elle a l'air d'être au-dessus de la mêlée. C'est parfait. Mais si jamais il n'y a pas d'entente, mais c'est terminé, là, les grèves pour la STM. En fait, c'est terminé, oui et non, parce que ça ne va pas empêcher les gens de faire des moyens de pression. Sauf que les parties doivent déterminer ensemble qu'est-ce qui constitue le service de base essentiel et c'est un juge à la fin qui tranche. Donc, ce n'est pas M. Boulay, là, le ministre du Travail, dans son bureau à Québec ou à Montréal ou en Mauricie, peu importe où est-ce qu'il est à ce moment-là, qui dit bah, moi, je suis tanné, ça va être ça, c'est un service essentiel. Il faut quand même comprendre que les travailleurs ont encore le droit de faire des moyens de pression. Mais on a vu dans les dernières semaines, à Québec, on peut sembler pas intéressé par la question de ce qui se passe à la STM, mais avec le RTC, la question se pose aussi quand il y a des moyens de pression. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Puis à quel moment les impacts sont trop grands et pèsent plus lourd dans la balance que le seul droit des travailleurs de faire des moyens de pression? Là, à Montréal, on a vu des gens qui n'arrivaient pas à aller prendre soin de leurs proches. Ils prennent le transport collectif pour, par exemple, aller s'occuper de leurs parents, des choses comme ça. Des organismes communautaires qui disaient, nous, sans le transport collectif, il n'y a rien qui fonctionne dans notre organisation. Des gens qui ne sont pas capables d'aller travailler, puis. Ça affecte de façon démesurée les plus vulnérables, les gens qui ont moins de sous également, les jeunes aussi qui se sont pas encore achetés de véhicules puis qui ont continué à utiliser le transport collectif. Puis je pense qu'il faut s'en réjouir parce qu'on veut moins de trafic puis on veut baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et là, on leur enlève finalement cette option-là depuis des jours déjà. Donc voilà, on est arrivé au bout de la piste pour ça. Maintenant, politiquement, c'est intéressant là, de regarder ça parce que la CAQ va déposer ça, sont assumés à 100 %. Mais maintenant, que vont faire les partis d'opposition? Le Parti libéral, pas trop compliqué. Il devrait être d'accord avec ça. On est d'accord là-dessus. Le PQ,
Ouais, mais ils ont ouvert la porte depuis dimanche, par exemple. Mais
ouais, là, il reste une position un peu compliquée.
Ouais, mais là, il reste Québec solidaire. Et je veux te faire entendre Alexandre Leduc en conférence de presse ce matin par rapport justement à cet appui pour que Jean Boulay devance sa loi qui était prévue pour la fin du mois. Et Québec solidaire, je le rappelle, avant de te faire jouer, je le rappelle pour nos auditeurs, avant de faire jouer justement l'extrait, Québec solidaire, un de ses maillons forts, c'est de protéger les plus vulnérables. OK? Je dis ça. Protéger les plus vulnérables. On écoute Alexandre Leduc par rapport à la grève à la STM. Donc, papa gouvernement doit piger dans ses poches pour le donner à la STM pour des chauffeurs d'autobus. Et là, tu vas me dire que je caricature Antonine, puis tu vas sûrement avoir raison. Mais pour des chauffeurs d'autobus qui ont 15 jours de congé maladie payés par année, qui sont le plus haut salarié dans l'autobus qu'ils conduisent lorsqu'ils transportent des gens au travail. Et la solution de QS, c'est de ne pas prendre soin des gens les plus vulnérables qui sont assis dans le siège des passagers, mais de dire « Gouvernement, trouve-nous des fonds ».
Pas juste ça, c'est de la faute de la CAQ.
Oui,
donc,
c'est
la
ça.
Donc, la grève, t'sais, résumons-le, c'est des travailleurs qui travaillent pour une société de transport qui est de juridiction municipale, on est d'accord?
Oui.
Puis là, ça va être de la faute du gouvernement du Québec.
C'est vrai, t'as tellement raison.
Si on n'a pas d'entente entre les deux, parce qu'on ne met pas assez d'argent dans les sociétés de transport. Bon, t'as caricaturé. Maintenant, quand on essaie de nuancer un peu la chose, c'est vrai que si on dit que le transport collectif, c'est un service essentiel, ben il faut mettre les moyens qui vont avec. Puis c'est vrai que de couper dans les transports collectifs, moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Mm-hmm. Maintenant, il y a un ménage qui a été demandé par le gouvernement en société de transport et la STM ne peut pas compléter son ménage si les travailleurs puis les syndicats ont des demandes qui sont irréalistes. Si, par exemple, on regardait les conditions de travail des travailleurs de la STM, puis qu'on voyait que, il y a un rattrapage à faire, ça n'a pas de bon sens. Si je pense, par exemple, je fais une comparaison, mais aux éducatrices en garderie, il y a quelques années, ben si on dit les garderies, c'est un service essentiel, puis qu'on voyait qu'ils gagnaient, les éducatrices gagnaient 30 000 $ puis ça n'a pas de bon sens avec tout le travail qu'elles font, tu vois qu'il y avait un problème ici, il y avait un déséquilibre parce qu'elles n'arrivaient pas à aller chercher des conditions de travail qui avaient du bon sens. Je les ai regardées, les conditions de travail des gens qui travaillent à la STM. Honnêtement, je dis, il y a toujours place à l'amélioration. Je veux que les gens aient des bonnes conditions de travail, mais il n'y a pas de rattrapage à faire.
Non, exactement.
Ce sont de bonnes conditions de travail. Donc, est-ce qu'il faut absolument qu'on injecte davantage d'argent pour satisfaire les demandes syndicales à l'heure actuelle? Ben, malheureusement, la réponse est non dans ce cas-ci. Quand tu as le pouvoir de paralyser une ville, là, c'est sûr que tu as un levier de négociation qui est démesuré.
Tu amènes un bon point. Je ne crois pas que la recherche d'amélioration des conditions de travail à la STM, des gens qui ont déjà des bonnes conditions de travail, mérite de complètement geler la ville comme ils le font.
Et puis là, ce qu'on veut faire en élargissant la notion de service essentiel, c'est pas de dire, ben, il faut qu'il y ait 100% du service, vous n'avez pas le droit de faire aucun moyen de pression. Donc, je pense qu'on vient rechercher un équilibre qui n'était pas là, en fait. Puis c'est du cas par cas, hein, les conflits de travail. Tu peux pas faire du paramétrique, mais dans ce cas-ci, je pense que le projet de loi va être très, très utile. Et je pense que le projet de loi de Jean Boulay a été fait de manière prudente et équilibrée, même si on fait évidemment de la politique tout le temps sur le dos des syndicats, puis que le gouvernement n'a pas toujours raison de le faire. Dans ce cas-ci, je pense que la joke a assez duré là, avec la STM. Là, il est temps que ça commence à refonctionner.
Je suis clairement d'accord avec toi. Antonine, hier, on a vu une vision. Ah, Pascal, toi aussi, tu l'as vu. Hein? La vision François Legault. Le PowerPoint.
Ouais. L'acétate.
Le PowerPoint.
L'économie du Québec va se transformer et ça va passer par deux choses. Hydro-Québec qui est une société d'État, donc encore de l'interventionniste, et le militaire, parce que là, Mark Carney est sorti depuis février en disant « Militaire, le militaire va tout nous régler, l'économie va passer par le militaire. » Fait que moi, emprunt de cette vision-là ce matin, Antonine, tu comprendras que dans Marceau le matin, on avait Joël Lightbound, ministre fédéral, député de Louis-Hébert, qui était assis en studio avec nous. Alors, j'ai posé la question à M. Lightbound. « Hey, le militaire, ça va tout améliorer? La Lévis va avoir des contrats. Québec va déborder de contrats. L'économie de Québec est sauvée par le militaire. » Je te fais entendre sa réponse. Ben, attends une minute, le militaire, le Canada, le Québec, on part. Yes! On a réglé notre problème d'économie. Mais là, les sous-marins, ça va être des Sud-Coréens puis des Allemands qui vont y construire. Puis là, il est trop tôt pour savoir quelle retombée économique je vais avoir ici à Québec, au Québec, au Canada. On est-tu sur le mirage Nordvolt?
Écoute, vision, mirage, avec une pincée de pensée magique. C'est un peu mon attention maintenant que ça fait 24 heures que le premier ministre a présenté sa vision. Cela dit, c'est vrai qu'il va y avoir des opportunités économiques pour le Québec. Il ne faut pas penser qu'on va devenir là, des chefs de file en fabrication de F-35 puis de sous-marins. Là, ça n'arrivera pas. Par contre, il y a toute une industrie, pas parallèle, mais connexe, qui peut profiter de tout ça, notamment l'aérospatiale, évidemment la Davy, tu sais, tout ça, oui, il va y avoir des opportunités économiques. Est-ce que c'est la panacée, puis est-ce que ça va arriver dans 3 mois? La réponse, c'est non, évidemment. Puis une autre affaire aussi avec le militaire, c'est que moi, je nous dis, soyons prudents avec achat local à tout prix quand il est question de militaire, OK? Moi, je suis pour ça, là, l'achat local, puis vous autres aussi, probablement. On est tous pour la tarte aux pommes dans la vie, là. Mais quand il est question d'acheter du matériel de défense puis militaire, là, tu veux le meilleur matériel, là, OK? Puis il y a des gens, il y a des pays que ça fait des années qui ont une industrie puis qui passent leur temps à parfaire et à faire de la recherche et développement sur le sujet. Et c'est vrai que quand on veut avoir moins de dépendance envers les États-Unis, puisque le réflexe, c'est toujours d'aller aux États-Unis, évidemment, pour toutes sortes de raisons, bien, il faut se tourner vers d'autres pays. Mais ça ne sera pas fait à Saint-Clinclin, au Québec, l'année prochaine. Ça n'arrivera pas. Ça va peut-être être plutôt la France, la Corée, tous des bons exemples, l'Angleterre. Mais on ne va pas être dans l'achat local. On essaie de réduire notre dépendance face aux États-Unis. Puis on essaie aussi de profiter d'un contexte international. Puis M. Legault s'accroche à la locomotive de Mark Carney. Pourquoi? Parce qu'il va sortir le portefeuille. Puis le Québec va avoir sa part du gâteau. Maintenant, en termes de calendrier politique, là, M. Legault, on ne verra pas les retombées de ça d'ici la prochaine campagne électorale. Fait que le positionnement qu'il a pris hier, c'est un positionnement qui est électoral aussi. Pas que ça enlève de la sincérité à sa vision, puis je pense que c'est vraiment sa pensée économique qu'on a vue hier. Mais dans les faits, il veut se positionner pour la prochaine campagne électorale, être le chef qui a la pensée économique la plus achevée, puis qu'on le regarde à côté d'un Paul Saint-Pierre Plamondon qui veut faire un référendum, puis d'un Pablo Rodriguez qui n'a jamais eu un profil très, très économique, puis qu'on se dise, ouais, dans le fond, si l'économie, c'est une priorité, ben ça serait M. Legault. Est-ce que ça va fonctionner? Ah, ben là, ça, c'est une autre histoire.
On va revenir à la conversation d'hier sur le messager n'est plus le bon, puis je pense qu'on
va... Le message n'est pas pire.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va tirer les mêmes conclusions.
Mais ça l'a dit, Jeff, en conclusion, tu sais, j'ai trouvé que l'annonce d'hier, c'est l'annonce de la CAQ la mieux accueillis depuis longtemps. Ils se sont pas fait là, tirer des tomates plus qu'il faut. Je disais, il y a une bonne stratégie de communication aussi où est-ce qu'il avait préparé le terrain avec plein de médias. Tout
ben, il y a tellement remercié le monde au début qu'à un moment donné, il n'en restait plus à être fâché.
Exactement, c'est une bonne stratégie.
Tu sais, quand ça fera 35 minutes, on remercie le monde qui sont là puis personne n'est fâché après.
C'est long, hein?
Ah, c'est
long. Un peu. Cela dit, regardez l'accueil. Je veux dire, les partis d'opposition vont s'opposer. Bon,
oui,
c'est bien
normal.
Correct, là. Mais globalement, c'est l'annonce la mieux accueillie depuis un sacré bout de temps qui arrive de M. Legault. Fait que je ne sais pas si ça lui redonne espoir. De toute façon, moi, je trouvais que ça n'avait pas l'air d'un gars qui s'en allait à Noël puis qui allait lancer une course à chérie.
Puis là, ça a encore moins l'air de ça. On termine le caucus Iaccarini qui est avec nous du lundi au jeudi à l'émission d'En Jase de midi à 12h30. Antonine, les libéraux qui demandent une enquête du vérificateur général dans le dossier de santé numérique. On s'en va-tu vers une deuxième commission d'enquête où là, si le VG fait son enquête et qu'on a le rapport Galant, on va pouvoir mixer des affaires, t'sais, je pense que ce serait la bonne stratégie à utiliser parce qu'on s'entend, Pascal nous le disait hier en nouvelle, on a parlé avec Nicolas Lachance aussi, c'est autant le bordel dans santé numérique que ça l'était dans sa clique.
C'est tellement déprimant, là. Je suis déprimée un peu aujourd'hui. Bon, d'abord, sur le fond des choses, oui, je pense qu'on s'en va vers je vais dire un fiasco, mais ça peut se dérouler de plein de manières. C'est-à-dire que déjà, le côté financier, on voit que ça ne fonctionne pas. Après ça, l'atterrissage, on ne le sait pas encore. Parce que le problème avec SACLIC, c'est que non seulement on a eu des dépassements de coûts complètement fou, mais en plus, ça ne fonctionnait pas. Puis on a eu un fiasco de service, hein, de service à la clientèle.
Les fils dehors à moins 25, là, c'était épouvantable.
Ah, c'était vraiment un merveilleux souvenir.
Mais souviens-toi, pendant ce temps-là, Karl Malenfant, dans sa tour d'ivoire, regardait le simple peuple dans sa file et se disait...
Que ça allait bien.
Ça va bien, il n'y en a pas de problème, je
pas
suis
problème.
Compétent. Éric Kerr demandait des éloges à la population.
Oh mon Dieu, tu nous rappelles toutes que des beaux souvenirs aujourd'hui. Pour ce qui est du dossier santé numérique, j'ai pas de boule de cristal. Je sais pas si à la fin de tout ça, peut-être qu'on va avoir trop sorti d'argent de notre porte-monnaie, mais peut-être que ça va super bien fonctionner. Fait que là, ça reste à suivre pour savoir si ça va finir en sac-clic. Maintenant, on attend impatiemment le rapport Galland. Mm-hmm. Parce que ces recommandations-là, on se doute qu'est-ce qu'elles vont être à peu près, là, mais il faut qu'on les mette en application. Puis le dossier santé numérique, ben c'est sûr, c'est un projet de transformation numérique qu'on a démarré dans les mêmes conditions qu'on avait démarré d'autres projets numériques qui s'en vont dans le mur parce qu'on n'est pas bon, parce qu'on n'a pas de compétences à l'interne, parce qu'on n'a pas une bonne gestion de projet, parce qu'on ne sait pas comment travailler avec le privé, puis parce qu'il n'y a personne qui connaît l'informatique non plus dans la strate politique d'un cabinet. Fait que c'est la même chose pour le dossier santé numérique. Tant qu'on ne va pas mettre des recommandations très importante en application, ben c'est évident que tous les dossiers de transformation numérique qui sont en cours, ben, ils s'en vont dans le mur. Il n'y a pas de surprise là.
En plein ça, pas de surprise là. On va suivre attentivement les développements et à souhaiter justement qu'on puisse faire des liens entre ce qui se passe en santé numérique, le rapport du commissaire Galland. Je souhaite une enquête du VG et là qu'on puisse justement enfin reprendre le contrôle avec certainement un autre gouvernement à compter de 2026.
Puis les libéraux sont bons, je trouve, dans le dossier parce que, tu sais, ils font de la bonne politique avec ça. Mon chef d'Éragi a été un porte-parole drôlement efficace, le Michel Cetlacoué, cet automne, qui a lancé des idées très concrètes avant même la publication du rapport. Puis d'après moi, ces recommandations-là vont être dans le rapport, fait qu'elle va pouvoir dire, bien, je l'avais dit. Et là, les libéraux demandent une enquête du VG. Je voudrais quand même préciser que ça ne marche pas de même, le VG, là, tu sais, dans le sens que le VG est complètement indépendant du politique. Mm-hmm. Puis probablement qu'il y avait déjà la puce à l'oreille. Fait que ce ne sera pas pour répondre à la demande des libéraux que le VG va commencer à enquêter sur ça. D'ailleurs, il y a un rapport du VG qui s'en vient quand même assez bientôt, mais qui est sur de tout autre sujet. C'est toujours hyper croustillant chaque fois que le VG sort un rapport, puis il y a des gens stressés là, dans certains
ministères. Ça va être sur quoi? On sait-tu déjà?
Il y a quelqu'un qui m'en a glissé un mot, mais là, j'avoue que je ne les ai pas en tête, puis je les avais pas notés, mais on s'en reparle, Jeff.
J'écoute toujours les conférences du VG avec émotion.
Non. Mais imagine, là, tu travailles dans un ministère, là, puis là, t'as un appel, c'est le VG, il commence une enquête, là, tu sors tous tes documents. Ouais. Tu sais que ça va venir. Nous autres, tu sais, grand public, on l'apprend le jour même dans une conférence de presse, là, mais il y a des gens qui ont passé probablement quelques nuits blanches avant la publication d'un rapport. Donc, les libéraux qui demandent une enquête du VG sur le dossier santé numérique. T'sais, d'habitude, c'est des enquêtes qui finissent par aboutir vraiment des mois, voire des années plus tard. Donc, peut-être que ça va arriver plutôt après la prochaine campagne électorale.
En effet. Merci beaucoup, Antonine Iaccarini. T'es-tu avec nous en studio demain?
Yes, à demain.
Yes, excellent. À demain. Merci beaucoup, Anto. C'était Antonine Iaccarini dans le caucus chaque lundi au jeudi à partir de midi jusqu'à 12h30. Pascal, avant qu'on passe à notre invitée Marie-Josée du Centre des ressources pour les familles militaires de Valcartier, parce que c'est le jour du souvenir, tu m'écris News
commerciale, nouvelle commerciale. En fait, ça fait 20 minutes exactement que c'est tombé. Ça vient d'être annoncé sur la page Facebook du commerce. C'en est un autre dans Saint-Joseph qui tombe.
Oh non!
Alors, très connu des fêteurs, le district Saint-Joseph, ouvert depuis 2015, donc 10 ans à faire vibrer.
Qui a fait partie du renouveau Saint-Roch.
Oui, qui ferme les lieux. Je vous lis ce qui est écrit. Après 10 ans à faire vibrer ce lieu, le renouvellement du bail nous a amené à réfléchir profondément. Nous avons compris qu'il était temps de baisser les rideaux. Les travaux, le stationnement, les aléas du quartier ont peu à peu éteint la flamme, mais les souvenirs, eux, resteront bien vivants. Merci à tous ceux qui ont ri, chanté, dansé et partagé un verre ici. Merci à notre équipe, à nos habitués, à nos amis. Vous avez écrit cette belle histoire avec nous. Notre dernière sortie, et ça en sera toute une, sera le 31 décembre. N'hésitez pas à venir partager un dernier moment avec nous ou à laisser vos meilleurs souvenirs en commentaire. Ils comptent beaucoup pour nous. Avec gratitude, Louis. Donc, c'est la fin pour le district Saint-Joseph dans le quartier qui a bien des défis. Un autre commerce qui tombe.
Alors, c'est très, 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 très triste pour Saint-Roch, pour Saint-Joseph, le district. J'ai passé beaucoup de belles soirées là à découvrir des petits bands underground.
Oui, puis on a fait des événements.
Vraiment, on a fait des événements.
On mangeait bien.
Je suis pas surpris, par contre, parce que les deux dernières fois, je suis allé au Grizzly Fog, je suis allé manger au district avant, puis je dois t'avouer que je trouvais qu'il y avait une baisse de clientèle, malheureusement.
Au niveau de la restauration, moi aussi. Par contre, pas au niveau du party. J'avais remarqué que les soirées étaient assez solides.
Ah oui,
au niveau de la jeunesse,
tu sais,
quand tu commençais à sortir, toi, jeune, mettons, mm-hmm. là, avant, nous autres, c'était le Dagobert qui était prisé sur Grande Allée à 18 ans.
Là,
j'ai l'impression
district.
Que c'était le district pour les jeunes, bon. Mais chose certaine, peut-être qu'effectivement, le party faisait pas, les soupers faisaient pas.
Exactement.
Ce qu'on faisait, tu sais, l'alcool a diminué chez les jeunes aussi. Y'avait-tu moins de consommation? Y allait-tu pas pour danser? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout se retrouve dans les lignes qui nous ont servi sur leur page Facebook.
C'est un excellent point. On va souhaiter bonne chance aux propriétaires. Puis on va surtout souhaiter qu'on retrouve un établissement très rapidement dans ces beaux locaux à proximité justement de la salle du Grizzly Fuzz. On va rejoindre en ligne Marie-Josée, qui est du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier, évidemment. C'est dans le cadre du jour du souvenir. Marie-Josée, comment vas-tu?
Ça va bien. Hey, merci de me recevoir ce midi. Là, si vous saviez à quel point ça me fait plaisir de vous parler. Là.
Ça fait super plaisir. Marie-Josée, Pascal va nous en parler tantôt. Oui. Bon, il y a de la poutine, 2 piastres par poutine à fromagerie Victoria, ça s'en va là. Il y a une nouvelle bière. Mais explique-nous, c'est quoi les services du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier?
Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre en premier lieu, c'est qu'on est un organisme sans but lucratif. Il y en a des fois qui pensent qu'on appartient à l'armée ou qu'on est à côté. Bien, on est à côté, mais on doit vivre de subventions. Puis évidemment, c'est toujours une lutte là, pas quotidienne, mais annuellement, il faut toujours voir à ça, aller chercher des fonds pour faire vivre le centre, puis continuer d'offrir des services, les varier, puis en ajouter aussi si possible. Donc nous, on va s'occuper principalement des familles de militaires, les familles de vétérans, les familles de réservistes aussi. Je parle beaucoup de famille, c'est qu'un militaire actif, il faut que vous disiez ça, ils ont beaucoup de services sur la base militaire, ils vont s'occuper de leur carrière, ils vont s'occuper de toutes sortes de choses, le suivi psychologique s'il y a lieu. Mais nous, on s'occupe de ceux qui sont avec les militaires, ceux qui font en sorte que un militaire, on dit souvent un militaire heureux, particulièrement en mission, c'est parce que sa famille va bien, c'est lié ensemble. Mm-hmm. Donc nous, on est là pour le volet famille et tout ça. Puis, ce qui arrive aujourd'hui, parce qu'on est dans le jour du souvenir, puis là, vous m'offrez une tribune, c'est incroyable pour dire un message qu'on a peut-être des fois de la misère à faire passer, c'est qu'auprès des vétérans, on donne des services, les familles de vétérans. Des fois, il y en a qui pensent, ben oh, moi, j'ai quitté les forces, ça fait 5 ans. Ben attendez, les amis, là, le service, c'est pour toujours, c'est pour toute la vie. C'est toute la vie, on va accompagner les familles de vétérans. Il arrive quelque chose, des fois, quand un militaire va sortir des forces, on dit un vétéran, puis des fois, on a l'image d'un monsieur qui est très âgé, qui a beaucoup de médailles. On voit ça aussi beaucoup pendant le jour du souvenir. Là, c'est beaucoup ça qu'on voit. Mais dites-vous qu'un vétéran, ça peut avoir 43 ans, des jeunes enfants, une conjointe qui a une vie active. Puis ce qui peut arriver, c'est après les forces. C'est, par exemple, s'il y a eu des blessures opérationnelles pendant le service, il peut arriver que ce militaire-là ait besoin de soins, d'avoir des rendez-vous, d'avoir un suivi. Puis souvent, c'est sa conjointe qui va prendre ce rôle-là. Sans dire, ben, ça peut être quelqu'un qui peut être considéré comme proche aidant, mais quand t'as une vie active, les enfants à les porter à la garderie, au hockey, tout ça, mais en même temps, t'as ton chum qui a besoin de toi à temps plein, ben, t'as besoin aussi d'un centre de ressources qui va te donner un coup de main, qui va te donner des outils pour passer à travers ça, parce que c'est pas évident. Et ça, pour les conjoints, conjointes de militaires, de vétérans, on est là, on lève la main, mais c'est pour tout le temps. Puis en ce moment, on a fait une grosse campagne de pub pour dire essentiellement ce que je viens de vous dire là. Écoutez, on est là tout le temps, parce que c'est dur en ce moment. Il arrive des moments où c'est peut-être moins évident, mais il y a un CRFM qui va vous donner un coup de main, puis le CRFM Valcartier. C'est le plus gros au Canada. Vous me demandez, c'est quoi un CRFM? J'ai peut-être pas répondu complètement. Il y en a partout, à peu près, où il y a une base militaire avec des familles. Là, c'est une base où est-ce qu'il y a des gens qui habitent là, des familles. Il y a un CRFM à côté. Il y en a une trentaine à travers le Canada. Fait que c'est sûr que celui de Valcartier, c'en est un important. On a beaucoup de services, des services à l'enfance. On a une maison de garde puis avec un parc là, pour amuser les enfants. On a des installations pour le psychosocial, de suivre, faire des suivis là, avec des TS qui sont extraordinaires. On a un service d'aide à l'emploi. T'sais, on est vraiment équipés. Tous les CRFM ne sont pas équipés peut-être à ce point-là, mais un CRFM est toujours à la recherche de sous et de tout ça pour ajouter des services et devenir optimal pour chacune des familles qui vont aller faire un tour là.
Excellent. Marie-Josée, comment on fait si on veut donner autre qu'aujourd'hui avec la poutine et la nouvelle bière? Est-ce qu'on peut aller sur votre site web? Comment qu'on fait pour vous aider?
Bien, premièrement, tu fais bien de le rappeler, Jean-François, c'est le 2$ par poutine vendu aujourd'hui dans toutes les fromageries Victoria à travers le Québec. Je pense que s'il y en avait une installée sur la Lune, Michael des fromageries Victoria, il trouverait le moyen de l'impliquer. Ça n'a pas de bon sens. 2$ par poutine vendu, ça va avoir un impact extraordinaire et concret pour votre CRFM. C'est touchant, c'est inespéré. Là, juste à côté de où est-ce qu'ils collent les poutines.
Ben oui, hein, on entend le bruit, let's go! Tu nous donnes faim!
Ils vont me nommer, ce ne sera pas long. Puis il y a aussi, ben, si ça vous tente de faire un petit cadeau au bas de Noël, la bière La Victorieuse, elle, c'est pas juste pour aujourd'hui, c'est 2$ par bière vendue. Eh bonne, cette bière-là, en plus, à l'heure du midi, je pense que je peux en parler librement. Mais si vous passez cette bière-là, en faire la dégustation, puis encore là, il y a 2$ qui vont aller dans les CRFM. Pour répondre à ta question, pour faire un don, vous pouvez aller sur notre portail, crfmv.com. Puis là-dessus, vous avez tous les détails, les façons de nous joindre, les façons de faire des dons, puis de nous soutenir de toutes les façons. Puis si vous êtes proche de familles militaires, tu sais, conjointe, mais aussi ça peut être papa, maman, ça peut être des proches, vous êtes les bienvenus au CRFM Valcartier.
Marie-Josée, continuez votre excellent travail. On vous supporte. Merci. Et on vous supporte pas juste dans le jour du souvenir, mais dans tous les jours de la semaine. Merci beaucoup pour ta présence dans l'émission d'En jase aujourd'hui.
Merci infiniment de m'avoir reçu. Je vous souhaite une belle journée.
Salut Marie-Josée. Salut, bonne journée. C'était Marie-Josée, coordonnatrice là-bas au Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Pascal, rappelle-nous, là, une poutine, parce que là, le monde est en déplacement, c'est l'heure du dîner. Il y en a qui ont une fringale. Puis
c'est
disent,
l'heure. Hey,
là, je m'en vas-tu au service à l'auto de la fromagerie Victoria? Ça va donner quoi?
La réponse, c'est oui. Puis au pire, si t'as mangé ta sandwich au ballonné, attends 2 heures, puis vas-y, pareil.
C'est
parce que...
quoi si t'as mangé ta sandwich au ballonné? Elle était pas bonne comme la poutine de la fromagerie Victoria.
C'est 24 heures. C'est la journée au complet où une poutine égale un don. Moi, s'il y a des entrepreneurs qu'on peut encourager quand ils décident de jouer pour la société, moi j'appelle ça le scorer dans un but, là. C'est comme les entrepreneurs de la fromagerie Victoria. Le 11 novembre, depuis plusieurs années maintenant, c'est là où on savoure une poutine, la vôtre, la vôtre préférée, n'importe quelle poutine, et tu poses automatiquement un geste qui compte. On en a parlé, mais chez Fromagerie Victoria aujourd'hui, on soutient le jour du souvenir. C'est 2$ par poutine vendue, peu importe le format, peu importe la sorte de poutine, qui s'en va directement au Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Donc, c'est valide dans toutes les succursales Fromagerie Victoria, toute la journée. Ce soir, congé de souper. Ce midi, congé de dîner. Peu importe, tout le monde mange de la poutine à Québec. C'est vraiment pas une tâche complexe et difficile. Puis c'est certainement pour le bonheur de nos papilles gustatives. Mais vous soutenez la cause. 2$ pour la meilleure poutine qui déborde de fromage en grains, qui est faite à 100% de lait entier, qui provient directement des fermes d'ici, dans 5 succulentes sauces. Vous la choisissez. Il y a vraiment des choses pires que ça dans la vie, on s'entend, là. Alors, c'est... tout le monde de la ville de Québec qu'on attend aujourd'hui à la fromagerie Victoria. Si vous avez peur d'être dans le fil du dîner, pas de stress, là. Allez-y à 13h, allez-y à 14h, allez-y à 15h. On vous attend en grand nombre. Vous faites une différence à chaque bouchée. Vous donnez du sens à des gens d'ici, donc chez Fromagerie Victoria. 11 novembre, c'est aujourd'hui. On pense à nos vétérans. On va manger de la poutine.
Merci beaucoup, Pascal. Pascal, on a ouvert une boîte de Pandore hier avec l'entrevue avec Isabelle qui nous a expliqué sa situation familiale, des personnes immigrantes françaises qui contribuent à la société, mais malheureusement, son mari ne peut plus travailler ici.
Exactement. En fait, c'est qu'ils avaient des permis de travail. Pour elle, c'était un permis de travail qui était, bon, aussitôt longtemps qu'elle le souhaite, puis son permis de travail pour son mari, il était temporaire. Et là, on a dit, ben non, ben on n'a plus besoin de toi pour travailler à la Sopfeu. On n'a plus besoin de toi pour travailler comme déneigeur l'hiver. Mais on comprend pas ça. Puis là, elle est rendue le seul salaire familial. Puis elle se dit, ben là, je vais retourner en France, moi, dans un an, je serai pas capable, dans ce contexte économique, d'être la seule pourvoyeuse de la famille. Puis son mari se mord les doigts sur le divan. Il a l'impression d'être inutile. Et pourtant, ce sont des emplois dans lesquels on a une pénurie de main-d'œuvre. Il n'y a rien à comprendre. Et on n'arrive pas à se défendre, puis on n'arrive pas à ravoir un permis de travail pour son mari. Puis même lui se fait contacter pour travailler, comme on dit, sous la légalité.
Oui,
donc,
c'est ça.
Pas vraiment
le fameux travail au noir.
Ouais.
On a un ami commun qui est Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. J'y ai envoyé notre entrevue d'hier. Il me dit « Jeff, m'en viens voir en studio. Il faut absolument qu'on parle de ce cas-là. » Donc, c'est ce qu'on va faire immédiatement après la pause. Ça te convient?
Absolument.
Excellent. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102 à l'émission « On en jase ».
Est-ce que c'est fait? Est-ce que vous avez commencé l'entretien de votre véhicule? Si oui, si vous êtes des patenteux débutants ou des patenteux de renommée, c'est chez Pièces d'auto économique que je vous envoie parce que c'est là que tout se trouve pour votre véhicule avant l'hiver. C'est le leader au Québec, c'est simple. C'est la place où on travaille pour vous offrir les meilleurs prix sur les meilleures marques avec garantie. Donc, pour les pièces d'auto, pour les accessoires, hein, patenteux renommée, patenteux débutants, c'est là-bas qu'on vous attend. Puis t'es jamais laissé à toi-même. Que tu sois un pro ou pas, on va répondre à tes questions, on va t'expliquer, on va te guider vers les bonnes pièces pour ton véhicule selon l'année, la marque, le tout au meilleur prix. C'est du vrai bon service, donné par du vrai bon monde. Puis ça, je vous le dis et je le surligne. On a tout, on a 20 marques de pneus, d'essuie-glaces, de batteries, d'alternateurs et encore plus. Puis c'est les promos de novembre qui sont en cours. Donc, on a travaillé fort pour t'offrir les prix ultra compétitif sur le marché. Entre autres, 10 % de rabais sur les disques de frein de première qualité Brake Max à forte teneur en carbone. C'est pour un freinage plus en douceur. 20 % de rabais sur les essuie-glaces de marque Rain-X. Parfait pour affronter la neige. Je viens de rechanger les miens. Puis en plus, j'ai appliqué le liquide Rain-X sur mes fenêtres de voiture. J'ai fait un 2 pour 1. J'ai tout acheté ça chez Pièces d'auto économique. Il n'y a pas un autre endroit où maintenant je m'en vais acheter mes affaires depuis plusieurs années. Profitez aussi de 10 % de rabais sur les plaquettes de frein Bosch. Puis 10 % sur les batteries de marque Maison Pièces d'auto économique. Les rabais de novembre, ben c'est en novembre. Alors c'est maintenant dans les 9 magasins au Québec, dans les 5 centres de distribution et sur le site transactionnel aussi, pièceséconomique.com. Puis pendant que je vous en parle, il y a une question qui est rentrée, c'est quoi Rain-X? Bien, c'est un genre de petit produit que tu mets sur ta fenêtre, puis quand il te pleut, là, comme aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, peu importe, ça va perler sur ton pare-brise. Fait que c'est vraiment plus facile de voir, puis en plus, le soir, bien, c'est un ajout extraordinaire. Vous n'allez plus vous en passer, je vous le garantis. Si je suis capable de le mettre, vous êtes capable. Point. Pièceséconomique.com.
Offrez-vous le traitement PRP.
On jase!
Ouais, puis on fait pas juste jaser au micro, Pascal Cévé, hein? On jase en dehors des ondes aussi!
On allait oublier de revenir en ondes, ouais, justement, ça. Parce qu'on
tellement qu'on a du fun avec notre invité Maxime Lapointe, qui est avocat spécialiste.
Ben, je sais pas si c'est du fun.
L'immigration. Ouais, c'est vrai, parce qu'on jase mon point? De problèmes. Ouais, je comprends ton point, puis Maxime, avant qu'on fasse jouer justement l'extrait pour que les gens se remettent dans le bain de notre entrevue d'hier avec Isabelle, cette immigrante française qui a plein de difficultés. Tu nous disais, moi, je fais les médias parce que ça marche, ça fait débloquer des dossiers. Mais comme Pascal disait, puis je trouve qu'elle a raison, elle disait, ouais, mais sinon, ben, plate qu'on ait besoin des médias. Comment ça, le gouvernement n'est pas capable de débloquer des dossiers qu'on devrait débloquer?
Ouais. Ben, par où commencer, là?
Ouais, hein? Je sais pas si je m'excuse, c'est une grosse
faire
question,
jouer
là.
Non, non,
ouais,
mais...
on va faire jouer l'extrait d'Isabelle et de son dossier hier qu'elle nous expliquait pourquoi, justement, son mari n'a plus de visa de travail. Puis par la suite, Maxime, on te bombarde de questions.
Alors, où j'en suis actuellement? Ça faisait 2 ans que je travaillais dans un salon Place Sainte-Foy. Ils m'ont renouvelé mon visa de travail pour 36 mois. Mais mon mari est plus admissible au rapprochement familial. Donc, pour lui, tout s'est arrêté au 31 mai, alors qu'il avait 2 emplois saisonniers. Un emploi à Baie-Comeau en tant que pompier forestier et un autre en tant que déneigeur à Sainte-Foy.
Et Isabelle, comment qu'on explique le fait qu'on renouvelle pas ton mari, mais que toi, on te renouvelle alors que vous formez une famille?
Eh bien, parce qu'en fait, aujourd'hui, le gouvernement dit que la coiffure manque moins de manœuvres qu'il y a 2 ans quand on est arrivé. Donc, le fait que mon mari, en fait, il manque moins de manœuvres, désolé, en coiffure, mon mari n'a pas pu avoir son renouvellement de visa. Donc, depuis le mois de mai, il ne travaille plus, alors qu'il était à Baie-Comeau le 31 mai. Il avait commencé la saison et puis il a dû rentrer parce que personne n'a voulu renouveler son visa de travail.
418-971-1001 pour réagir. Vous avez été énormément à réagir hier. Maxime, comment qu'on fait pour régler la situation d'Isabelle et de son mari?
Oui, mais il faut comprendre le contexte. La population a demandé au gouvernement, autant du Québec que du Canada, de baisser les volumes d'immigration. Mm-hmm. Le gouvernement du Canada a commencé à s'attarder au problème en juillet 2023. Il y a eu une réunion de députés, de ministres, et il y a eu une série de réformes à partir de 2024. Exemple, un étudiant qui vient avait accès à un permis de travail ouvert pour son conjoint. Là, dans la plupart des diplômes, ça a été retiré à partir de février 2024. Donc, des gens de, disons, 50 ans, des Français qui décident de venir faire un DEP au Québec, puis le conjoint ou la conjointe aurait un permis de travail ouvert, si on n'en voit plus depuis février 2025. Pour le cas de Mme Isabelle, en janvier 2025, on a fortement restreint les permis de travail ouverts pour les conjoints de travailleurs étrangers. Donc avant, dans les dernières années, on avait soit un poste qui est considéré comme spécialisé ou peu spécialisé. Les deux finissaient par permettre le permis de travail ouvert. Ça avait été élargi beaucoup pendant la COVID. Et là, en janvier 2025, on a une liste de professions. Et si le poste n'est pas sur la liste et si le permis de travail de la personne qui veut parrainer, disons-le comme ça, son conjoint, sa conjointe, n'est pas valide pour 16 mois, eh bien, on n'a pas accès. Donc, on voit des fois les deux exemples. Maintenant, dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, les permis sont limités à 12 mois pour les postes à bas salaire. Donc, tu ne peux pas avoir un permis valide pour 16 mois si tu as un permis de 12 mois. Puis les postes sur la liste, bien, ils sont clairement définis. Puis comme la dame disait, coiffeuse l'est pas. Donc, il y a eu un changement de règles en janvier qui découle du fait que la population a dit qu'il y a trop d'immigrants. Là. Donc, allez-y avec votre question.
Non, c'est un signe que je fais à Jean-François quand on a un complément là, de questions à ce qui se dit en ce moment. Puis on en a un, lui et moi, parce qu'on a parlé hier. On se demande, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un droit acquis, une clause grand-père là-dedans, ou encore, tu sais, à un moment donné, on l'a fait venir, elle fait les formations pour être coiffeuse parce qu'on a une demande dans ce métier-là, puis deux ans plus tard, on n'a plus de demande, donc elle n'est même plus éligible pour... Tu sais, les gens qui vont immigrer ici, vont-il falloir qu'ils changent de métier à chaque saison gouvernementale? Il ne peut pas avoir des clauses comme ça où à un moment, tu es arrivé, bien... En plus qu'ils sont intégrés, en plus qu'ils ont un milieu social.
Langue française.
Il manque juste un sapristi de papier. C'est un peu pathétique.
Ah, c'est sûr. Moi, je suis là-dedans tous les jours, donc pour moi, c'est pas si surprenant. Les changements de règles depuis les 18 derniers mois, il y en a plus que 10. On les voit puis on les vit. Là. Il y avait des consultations publiques sur l'immigration pas plus tard que le mois dernier. Moi, j'ai présenté un mémoire, puis dans mes recommandations, il y en avait une qui disait le gouvernement devrait avoir un engagement de prévisibilité envers les ressortissants étrangers. Ça veut dire que les règles pour demander la résidence permanente devraient être les mêmes qu'au jour où vous êtes arrivé au Québec. Ouais. Donc ça, pour un poste de coiffeur, comme ça, le programme de l'expérience québécoise qui a été fermé au mois de juin en cachette pendant que tous les politiciens étaient partis en vacances par décret. Ben, s'il y avait une clause grand-père, comme il y a eu lors de la dernière réforme de ce programme-là en juillet 2020, si on disait que ben, les gens qui étaient sur le territoire lors de la fermeture ou la suspension du programme en juin ont encore accès, mais cette dame-là aurait éventuellement accès à la résidence permanente et elle pourrait inclure son mari. Là. Parce que de l'autre côté, le permis de travail ouvert, il faut faire attention, c'est quand même un permis d'exception. Là. La règle, c'est un permis de travail qui est lié à un employeur, majoritairement dans le programme des travailleurs étrangers temporaires où le Québec et Service Canada ont compétence. Et dans le cas précis de cette dame-là, où ça devient compliqué, c'est quand on a deux emplois saisonniers, ça peut être chaud pour un employeur de vouloir faire une démarche, sachant qu'on va faire un permis juste pour 6 mois. Attention au terme aussi, quand la dame parle de visa, là, c'est pas un visa, c'est un permis de travail, c'est une feuille de papier. Là. Un visa, c'est étampé dans un passeport, ça permet de voyager quand on a besoin d'un visa, exemple pour un Chinois qui voudrait venir ici. Les Français, eux, voyagent avec une autorisation de voyage électronique. C'est important d'utiliser les bons termes, sinon on perd l'auditoire. Mmh.
Parmi le... Tu dis du côté du mari d'Isabelle que le fait qu'il y ait deux emplois à temps partiel, deux emplois saisonniers, c'est-à-dire l'assobe-feu à l'été et le déneigement à l'hiver, ça serait plus complexe si on l'embarquait dans une clause grand-père?
Bien, dans une clause... Parce que là, une clause grand-père de permis de travail ouvert de réforme de janvier dernier, mm-hmm. J'avoue que j'y crois moins, là, très honnêtement. Une clause grand-père pour demander la résidence permanente, parce qu'une manière de sortir d'un statut temporaire, c'est de devenir résident permanent. Et là, on a vu jeudi passé, le ministre de l'Immigration a lancé son plan d'immigration avec les cibles pour 2026. On parle de 45 000 nouveaux résidents permanents. Quand on en a pris autour de 60-65 000 dans les 3-4 dernières années, donc on veut baisser. La manière qu'on va s'y prendre, c'est on va faire attendre les gens plus longtemps entre le stade de la sélection par le Québec puis l'admission par le Canada. Les gens qui sont pris dans la machine, exemple des gens d'affaires, mm-hmm. Le Québec dit au Canada, finis-moi 500 dossiers par année, mais il y en a 4000 pour qui le Québec a dit oui. Donc moi, j'ai des travailleurs autonomes à Trois-Rivières dans le domaine de la construction qui me disent, Maxime, ça va me prendre 7 ans avant ma résidence permanente. La réponse est actuellement oui. Et pour baisser à 45 000, aussi, ce qu'on fait, bien, c'est qu'on ferme la porte d'entrée. Et quand on ferme la porte d'entrée dans le programme de l'expérience québécoise depuis le mois de juin, mais le gouvernement a dit comme ça, on va être capable de respecter notre cible à 45 000, pardon. Mais moi, puis ce matin, j'écoutais le commissaire à la langue française qui était à la radio à Mario Dumont, et lui, il parle du déclin du français, mais là, on est en train de parler d'une famille de français, puis s'il y a une qualité ou un défaut des Français de France, c'est qu'ils ne parlent pas anglais. Ils ne parlent aucunement anglais. Donc là, on est en train de dire à ces gens-là, ben, repartez chez vous, puis après, on se plaint que le français n'est plus utilisé au Québec. Donc, à mon avis, comme vous avez dit, Pascal, Klaus Grandpère, pour demander la résidence permanente, il y avait un reportage à la TVA super attendrissant d'une famille qui va être obligée de quitter probablement à cause que le programme est fermé. À mon avis... le ministre devrait avoir un petit peu plus d'humanité là-dessus. Là.
Tu sais, je comprends honnêtement qu'on ait des règles, des lois, des façons de faire. C'est très important. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. De venir resserrer, puis je pense que ça fait un peu écho à Ruba Gazal qui est venu nous jaser des fois qu'il avait l'impression que le gouvernement prenait ces gens-là pour des pions puis a oublié un petit peu l'humanité derrière. C'est un peu ce que vous nous dites aussi, maître. Mais est-ce qu'on n'a pas oublié justement... tout ce qu'on souhaite d'une personne qui vient immigrer ici au Québec, qu'elle s'intègre, qu'elle a un cercle social, qu'elle souhaite travailler, qu'elle souhaite le faire. Je comprends qu'on va faire du cas par cas, on perd beaucoup de temps, mais encore une fois, on passe une loi en immigration puis ça semble pas ficelé. Est-ce que c'est une mauvaise façon de voir les choses? Est-ce que je l'interprète mal?
Actuellement, moi, ce que je dis dans les médias depuis quand même un an, là, c'est qu'en immigration, on déconstruit l'avion en plein vol. Là. Donc, il y a plein de nouvelles règles qui s'additionnent et c'est tout des reculs. Là. Des choses qu'on pouvait faire il y a deux ans, que, comme je vous ai dit tout à l'heure, un conjoint d'un étudiant étranger, on ne peut plus. Un conjoint d'un travailleur étranger, ça prend un permis valide pour 16 mois puis un poste sur une liste. Donc, on discrimine beaucoup de gens. La résidence permanente, les programmes fermés, le programme actuellement, le seul programme au Québec pour demander la résidence permanente. Il est sur invitation. Le gouvernement contrôle les critères. Depuis le mois de juillet, ils ont invité 200 personnes à peu près dans un des quatre volets. C'est des petits volumes. Donc, pendant ce temps-là, les immigrants se retrouvent avec un permis de travail qu'ils veulent essayer de prolonger. Les règles ont changé aussi dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. Puis, ils ont perdu leur accès à la résidence permanente. Ils se retrouvent échec et mat. Et c'est un peu ce que le gouvernement veut. Quand François Legault dit qu'il y a trop d'immigrants temporaires, puis il mélange les demandeurs d'asile en attente d'une audition de la commission de statut de réfugiés qui déborde, on est à 3 ans minimum, et des travailleurs en emploi qui ont démontré une pénurie de main-d'œuvre dans leur secteur, c'est là où on fait erreur. On mélange tous les immigrants temporaires. Il y a aussi des étudiants étrangers qui sont venus, qui n'ont jamais étudié une journée, qui ont lâché l'école, qui travaillent dans un restaurant de restauration rapide. Il y en a 150 à Trois-Rivières l'année passée qui ont demandé l'asile.
C'est peut-être là où qu'on devrait un petit peu plus resserrer les règles, parce que c'est des gens qui n'ont pas suivi le pourquoi sont arrivés ici.
Des gens qui travaillent et qui parlent français, on fait tout pour les garder, là, et non l'inverse. Donc, dans les consultations publiques, moi, j'avais une recommandation qui s'appelait de créer un programme qui pourrait s'appeler programme de l'excellence québécoise, c'est-à-dire le niveau de français le plus élevé, oui. Le niveau 12, le niveau C2 selon les échelles, peu importe. Vraiment pour cibler des Français de France. Et 12 mois de travail dans peu importe la profession, on pourrait retenir des Français qui arrivent souvent avec un permis vacances-travail, le PVT. Là. Donc, c'est un permis de travail qui est délivré par le Canada. C'est un permis de 2 ans, qui est un permis ouvert, qui permet de travailler n'importe où, mais qui ne se renouvelle pas. Et j'en ai 3 par semaine dans mon bureau qui viennent de prendre des rendez-vous en me disant « Mais mon permis se termine le mois prochain. Mon employeur n'a pas de marge de manœuvre dans son 10 % de travailleurs étrangers. Ça limite dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. Ou mon employeur ne veut pas faire la démarche. Ou peu importe. » Mais si on pouvait retenir les francophones, parce qu'à mon avis, je pense qu'on peut préserver le déclin du français puis l'efficacité de l'économie québécoise. On peut faire les deux en même temps.
En effet. Et puis, il n'y a pas un double standard, Maître Lapointe. Et pour rappel, on parle avec Maître Maxime Lapointe, avocat spécialiste en immigration. Et je m'explique du double standard. Pendant qu'on va dire à Isabelle et son conjoint retourner en France, Québec International est au Brésil à recruter.
Oui.
Je la comprends pas, celle-là.
On en avait déjà parlé quand même. En 2023, dans le même exercice de planification pluriannuelle, il y avait des consultations publiques. Je disais à l'ancienne ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, si vous trouvez qu'il y a trop d'immigrants temporaires, arrêtez de dépenser des fonds publics pour aller en chercher.
Ben, c'est ça.
Là, en 2025, ce que je disais dans les médias, c'est le ministre blâme le fameux programme de mobilité internationale, qui est un programme d'immigration pour recruter des travailleurs qui est géré uniquement par le fédéral. Exemple, le PVT, ça en est un. Et le ministre Roberge dit, il y a trop de dossiers dans le programme mobilité internationale. On l'appelle le PMI dans le jargon. Mais le CIUS de Lévis, dans sa propre pénurie de main-d'œuvre, utilise le programme fédéral pour recruter dans le domaine de la santé. Donc, ce que le ministre d'immigration comprend peut-être mal, c'est que son propre gouvernement utilise un programme d'immigration fédérale pour recruter des travailleurs pour la pénurie de main-d'œuvre de l'État. Et ça, pour moi, c'est la plus grande incohérence que j'ai vue en 15 ans de pratique. Là, le Québec n'utilise même pas le programme dans lequel il y a compétences pour aller recruter des travailleurs. C'est quand même fort. Et deuxièmement, ces programmes-là servent à quelque chose. Et il y a un double standard, en plus, quand on va, vous l'avez dit, dépenser des fonds publics pour amener des entreprises, puis quand ils reviennent en disant « mais finalement, on a changé les règles, ils pourront pas venir, les travailleurs que vous allez sélectionner en mission le mois passé. »
Ben oui, puis tu sais, on parlait tantôt d'avoir deux emplois à temps partiel, si on veut, ou deux emplois saisonniers, tiens, pour utiliser les bons termes, soit la sopfeu, puis le déneigement pour le mari d'Isabelle. Il y a quelque chose là aussi, c'est pas n'importe qui ici au Québec qui va faire « ben oui, moi, je vais prendre deux emplois saisonniers. » Tu sais, là-dedans, t'as de la précarité, t'as le fait de devoir être entre Baie-Comeau et Québec. C'est, le déneigement, c'est pas facile.
C'est ce que j'allais dire. Puis je vais aller passer tout l'été à Baie-Comeau, loin de ma famille. T'sais.
Puis fait, je me dis, tu sais, c'est quand même quelqu'un qui fait un, entre parenthèses, don de soi professionnel. Parce que la précarité vient avec l'emploi saisonnier, c'est pas, somme toute, quelque chose que tout le monde va accepter. Fait que tu dis « crime, ce gars-là est engagé, il le fait. » Je comprends pas comment ça peut tomber sur la tête de ce genre, sur ce genre d'immigrants-là.
C'est qu'il y a un changement de discours là, depuis les derniers mois. Là. On est en élection l'automne prochain. Le Parti québécois veut moins d'immigrants. Puis le gouvernement de la Coalition Avenir Québec essaie de se coller genre en disant « nous aussi, on en veut encore moins que vous. » Donc, qui est-ce qui veut le moins d'immigrants entre le PQ puis la CAQ? C'est un peu ça, la question. Parce que, dans le fond, les règles ont changé. Mon adjointe Nadine, dans le bureau, elle est arrivée en 2021. Elle est venue étudier. Puis elle me l'a dit ce matin. Elle m'a dit « si j'avais su que j'aurais pas eu accès à la résidence permanente parce que le programme Expérience québécoise a fermé au mois de juin, elle dit « je serais pas venue ». Puis Isabelle, c'est la même chose. Donc, des Français, ou plus largement, n'importe quel ressortissant étranger qui a pris la décision de mettre sa vie dans deux valises dans les cinq dernières années, sachant qu'on pouvait prolonger un permis, on pouvait avoir un permis pour le conjoint et on pouvait demander la résidence permanente après 2 ans, mais ces gens-là, à mon avis, on n'a pas le choix de garder une clause de droit acquis la plus large possible parce que c'est un peu le contrat social qu'on avait avec eux. Les règles d'immigration, à ce moment-là, étaient les suivantes. Et là, ça devient un peu compliqué de dire « mais finalement, c'est plus ça ». Puis, parce que c'est pas si simple non plus, un immigrant qui repart dans son pays, là, il met des créanciers dans le pétrin aussi. Peut-être qu'il va pas payer son loyer, sa carte de crédit, son prêt d'automobile. Donc, tu sais, à mon avis, de la prévisibilité, c'est ce qu'on aurait eu besoin dans la dernière année. Ça, on a changé beaucoup les règles dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. On aurait dû permettre aux entreprises de renouveler toute leur flotte de travailleurs pour 3 ans, puis en disant, OK, c'est comme la dernière fois qu'on vous permet ces règles-là. Ils ont changé, mais on ne vous pénalise pas parce que vous êtes déjà dans la machine. C'est ce qui n'a pas été anticipé par le gouvernement.
Je comprends, et en terminant, Maître Lapointe, je comprends qu'on est allé à la va-vite du côté de la CAQ dans ce dossier-là, en justement permettant pas de la prévisibilité. Et là, est-ce que économiquement et du côté d'une notoriété internationale, ça peut causer des effets pervers au Québec?
Bien là, le problème que je vois, puis j'espère qu'il nous reste un petit peu de temps pour l'aborder, moi, ce que j'ai vu directement quand le ministre a lancé son plan d'immigration, puis j'étais à la télé pour en parler jeudi passé, c'est qu'il y a des gens qui font la publicité des programmes de résidence permanente partout ailleurs au Canada. Donc, il y a le programme Entrée Express pour quelqu'un qui a l'intention de s'établir partout sauf au Québec. Et là, les gens font la promotion en disant « venez immigrer dans le programme du reste du Canada. Le Canada va chercher des francophones » parce que le Canada a un peu le même problème. Il y a trop d'immigrants temporaires et ils veulent discriminer, entre autres, des Chinois, des Philippins, des Indiens qui ont des permis d'études. Donc, ils vont chercher des francophones. Alors là, ce que moi, je vois dans mon bureau, aux francophones disent « ben j'ai appliqué dans le programme disant j'avais pas l'intention de vivre au Québec. J'ai été approuvé par le programme de l'Ontario, mais finalement, je vis au Québec. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, Maître Lapointe? » Puis là, ça devient compliqué de dire ben, la charte canadienne prévoit la mobilité dans le pays pour tout résident permanent, donc la charte te protège, mais de l'autre côté, à mon avis, puis je tiens à le dire sur vos ondes, c'est une fausse déclaration, à mon avis, de dire « j'ai l'intention de vivre partout sauf au Québec » puis finalement de rester au Québec. Donc là, ce qu'on voit actuellement, je reviens là-dessus, les gens vont utiliser le programme du fédéral pour vivre partout ailleurs au Canada, mais dans le fond, vont rester au Québec. Alors, Jean-François Roberge, son fameux 45 000 nouveaux immigrants, ben, il n'y aura jamais les vrais chiffres.
Ouais, parce que jamais capable de le contrôler.
Les gens qui vont avoir passé par le fédéral, ils ne sont pas calculés nulle part. J'en avais parlé avec Stéphanie Gramont de la presse, ça fait déjà 2 ans. J'appelle ça des flux migratoires irréguliers. C'est comme dans la catégorie du regroupement familial. Je parraine ma femme mexicaine, exemple, bon, pour avoir la résidence permanente. Les délais de traitement ici sont quasiment 3-4 ans, puis partout ailleurs au Canada, sont plus 12-13 mois. Donc, les gens déménagent dans une autre province temporairement, puis après, ils reviennent au Québec. Donc, est-ce qu'on a vraiment rempli l'objectif, là?
Non, vraiment pas. Je pense que poser la question, c'est y répondre. Maître Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration, était avec nous pour parler d'immigration. On se refait ça, Maître Lapointe? C'est très intéressant comme conversation.
Merci.
Cool. Merci infiniment. Et on va souhaiter le mieux à Isabelle et à son mari. Évidemment, Kevin qui écrit là, par texto, il réagit chaud 418-971-101. Il dit « Ouais, la CAQ, elle en fait pas mal de va-vite comme ça, de décisions voilà, malheureusement qui font pas vraiment de sens. »
Écoute, on exclut Maître Lapointe de nos commentaires parce que c'était son entrevue et oui, nous allons dire des choses que peut-être auxquelles il se colle pas, mais là, ça fait plusieurs dossiers dans lesquels c'est du va-vite, c'est du non-ficelé. C'est si on avait besoin de compétences, si on avait besoin de plus de temps, à un moment donné, à force d'aller vite, je me pose encore la question du pourquoi. Parce que eux probablement pensaient faire un gain politique, réussir à sortir des projets avant les élections, mais ils réussissent qu'à sortir du chaos avant les élections. Ouais, ils ne gagnent rien. Bien au contraire, ils montrent une certaine médiocrité politique. Là.
T'as entièrement raison. Ce qui est intéressant, c'est que le cas d'Isabelle et avec plein d'autres cas, justement, qu'on a, notamment une personne là, de nationalité belge dans le domaine de la santé hier, c'est qu'on se rend compte qu'avec les politiques de la CAQ, c'est pas juste de fermer les portes aux demandeurs d'asile ou à l'immigration. C'est qu'on sort du monde qui sont utiles dans notre société, qui payent des impôts, des taxes, comme Maître Lapointe vient de le dire, la carte de crédit, le paiement de voiture, le logement, et on les sort du Québec pour les renvoyer chez eux.
Oui.
Des gens qui contribuent à notre société, autant par leur travail que par le paiement d'impôts et de taxes.
Oui, puis tu sais, écoute, là, on a eu un commentaire d'un commerçant hockey pendant l'entrevue. J'ai tellement besoin de mes travailleurs étrangers, c'est hallucinant. Je suis contraint de baisser mes heures d'opération en ce moment. Mon chiffre d'affaires en souffre. Mes coûts fixes ne sont pas moins chers pour autant. Et je ne suis pas capable de mener à terme mes opérations. On a besoin de ces gens-là. Pourquoi les renvoyer une fois qu'ils sont bien implantés dans la communauté qu'ils travaillent?
Et voilà. Alors, t'imagines, plein de commerces comme ça, des commerces en région également. On le sait, il y a eu des belles sorties des chambres, des différentes chambres de commerce
versus
et d'industrie.
Aller voir où est-ce qu'on n'a pas respecté le pourquoi on est arrivé puis qu'est-ce qu'on a signé en parenthèse auparavant, si c'était pour les études, etc.
Ouais.
C'est là où ça s'est pas bien fait, pas bien ficelé.
Du tout. Et pendant ce temps-là, bien, on continue d'aller recruter à l'extérieur avec nos organismes gouvernementaux.
Oui, exactement. Jeff, permets-moi de redire encore une fois la fermeture du district.
Bien sûr.
On a fait l'annonce il y a une heure environ, là, mais... Là, le district Saint-Joseph, que, excusez-moi, c'est parce que je vois que nos collègues nous l'ont fait aussi, mais on était sur la nouvelle, c'est correct. De 2015 à 2025, c'est terminé pour le district Saint-Joseph, institution en fait de festivité du côté de Saint-Joseph après 10 ans à faire vibrer ce lieu-là. On annonce officiellement sur la page Facebook que le renouvellement de bail les a fait réfléchir, puis on a décidé justement de baisser le rideau. Alors, la dernière soirée au district Saint-Joseph, ce sera le 31 décembre.
Alors, participez-y en grand nombre et allez saluer cette institution-là qui a fait vraiment le bonheur des gens de Saint-Roch et qui a participé au renouveau de Saint-Roch. Pascal, après la pause, on va parler avec Rémi Villemur, qui est chroniqueur ici à l'émission On en jase les mardis et jeudis aux alentours de 13h, également animateur au 99.5 Montréal. Il veut revenir sur la polémique BBC-Donald Trump. Montage, un faux montage où on a pris des paroles de Donald Trump séparées de 54 minutes. On a fait jouer ça sur BBC. Et là, bien, il y a deux têtes dirigeantes qui ont payé le prix. Donald Trump dit « Je vais poursuivre la BBC ». Donc, on va jaser de ça avec Rémi Villemur. Est-ce qu'on a encore des vrais journalistes, Pascal, dans nos institutions?
Ça, c'est une question, mais aussi à quel point l'intelligence artificielle peut être mêlante.
Tellement.
Pour moi, ça me fait bien peur.
C'est une excellente remarque, Pascal. C'est bon. On parle de tout ça après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
Jeff et moi, on vous en parle depuis le début de la journée et on vous en parle aussi depuis le début de la semaine. Pourquoi? Parce que des entrepreneurs qui ont le cœur grand comme ça puis qui se disent, bon, comment est-ce qu'on peut nous aussi faire notre part? On adore. Et c'est le cas de nos amis chez la fromagerie Victoria. Toutes les succursales aujourd'hui sont concernées par ce que je vais vous dire. 11 novembre, c'est quoi? Bien, c'est le jour du souvenir. Puis on trouve ça très essentiel et important de parler de nos vétérans, de parler de nos militaires. Et pour la fromagerie Victoria, vous savez, c'est une cause qui leur tient à cœur. Aujourd'hui, vous mangez n'importe quelle poutine dans n'importe quelle succursale, automatiquement, vous êtes un philanthrope. Pourquoi? Parce que ça fait un don direct de 2 $ par poutine, peu importe le format, directement au Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Ici, là, sur votre territoire, dans les familles que vous côtoyez au quotidien. C'est valide, je vous rappelle, dans toutes les succursales pour toute la journée. Il est 13 heures. Vous avez mangé votre sandwich au ballonné, votre salade grecque, vous n'avez rien mangé. Direction Fromagerie Victoria. Mettez ça sur mon dos. Ben oui, j'ai encore mangé une poutine parce que c'est Pascal CV qui m'a obligé de le faire. Je vous oblige certainement. C'est une prescription de ma part. Prescription non officielle et non clairement experte, mais quand même prescription officielle d'aller manger la meilleure poutine qui existe en soutenant la cause. Poutine qui déborde de fromage en grains à 100%, fait de lait entier provenant directement des fermes d'ici dans les 5 succulentes sauces. Choisissez la sauce que vous choisissez. Il y a vraiment des choses pires que ça dans la vie. Et si ça vous tente, bien, la prescription, elle est possibilité de donner aussi. Hein? Fait que si jamais vous dites, bien, parfait, congé de souper ce soir, j'appelle mon conjoint, j'appelle ma conjointe, peu importe, je colle les enfants ce soir, c'est de la poutine. C'est une prescription familiale. Chez Fromagerie Victoria, 11 novembre, on pense à nos vétérans. On va manger de la poutine.
Vous rêvez d'une...
On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Il est présentement 13h12. Jeff Fortin, Pascal CV avec vous pour vous accompagner jusqu'à 14h. Par la suite, ça sera le retour de Gravel avec Denis Véro. Mais crime, Pascal, Audrey est malade. Elle va être absente.
Ah oui, c'est une absence, oui.
Une absence impromptue. On va tellement s'ennuyer de notre Audrey. J'espère qu'elle va bien aller, qu'elle va être là demain. 418-971-1021, évidemment, pour nous joindre.
Mais il y en a plusieurs qui ont manqué du travail aujourd'hui, Jeff, pas juste pour la maladie, hein, les pannes d'hydroélectricité, en fait, qui sévissent partout. La capitale nationale, on est épargnés, mais je dois dire qu'à la grandeur du Québec, on peut encore signaler plus de 200 000 adresses touchées. Puis il y en a plusieurs qui vont revoir l'électricité que demain, parce que les équipes sur place ne suffisent plus à répondre à la demande. Là. Je te dirais que si je regarde le plan concret là, pour toute la province, la Montérégie, c'est 95 000 clients privés d'électricité. C'est eux qui gagnent le palmarès. D'après moi, s'ils pouvaient ne pas le gagner, ils auraient fait un choix différent.
Aïe, aïe, aïe. Et à la météo, justement, neige intermittente qui va cesser ce soir, mais on parle de très peu d'accumulation ici à Québec. Demain, ce sera 1 degré avec possibilité d'averse de neige. Et jeudi, 2 degrés, même principe, neige ou pluie. Donc, on est dans ces cocktails-là en ce mois de novembre. Parlant de panne électrique, de neige qui vient complètement geler une ville. T'sais, on n'est plus capable de se déplacer. Puis ça arrive toujours quand il y a de la neige. Ça arrive toujours à Montréal. Donc, on va aller rejoindre Rémi Villemur en direct de l'est de Montréal, un quartier délaissé par l'ancienne mairesse Valérie Plante. Ça va-tu changer avec Soraya Martinez, mon Rémi?
Ben écoute, on en parlait avant d'entrer en onde. On parlait de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est député dans l'Est, qui pourrait bien devenir premier ministre et faire une différence. Mais j'aurais pu simplifier les choses en te disant que la nouvelle mairesse, c'est l'ancienne députée de mon quartier.
C'est donc, vrai!
Au fédéral. Donc, peut-être qu'elle va avoir une pensée pour les gens dans l'Est qui voient toujours les poubelles être ramassées en dernier, la neige être ramassée en dernier, qu'on arrive dernier. Mais on a une mentalité de premier pareil.
Alors, Pascal, nous, à Boulevard 102, on va faire la promotion de l'Est de Montréal.
Je pense qu'on va manquer un peu de target sur le public, par exemple.
Tu penses? On n'aura plus d'auditeurs parce qu'on va juste faire des émissions sur l'Est de Montréal?
Ils vont se poser quelques questions.
OK, quand on va parler avec Rémi, on va promouvoir l'Est de Montréal. Rémi, il se passe toute qu'une chose dans le domaine journalistique et c'est la BBC qui a complètement erré dans son devoir d'objectivité en faisant un montage sur le discours que Donald Trump avait fait avant l'insurrection au Capitole. Je te fais entendre justement le montage que la BBC a fait, la réalité par la suite. Tu vas voir, les deux sont collés et on s'en reparle. Ça te convient?
Allons-y.
Excellent. On y va à l'instant même. Crémy, on comprend très bien que le fight with ill, we don't have a country anymore, est venu 54 minutes après, justement, le début du discours de Donald Trump. La BBC a décidé de coller les deux ensemble. Donc, ça faisait en sorte qu'on comprenait par ce montage-là que Donald Trump avait dit aux gens « Allez envahir le Capitole parce que faut se battre comme des démons pour notre pays et notre démocratie », ce qui était totalement faux dans les faits.
Oui, puis ça révèle encore, je pense, la nécessité de tenir la fameuse discussion autour de qu'est-ce que c'est qu'un média d'information, qu'est-ce que c'est que de l'information, est-ce que information, ça rime avec opinion juste parce que les deux mots finissent en « on » ou il n'y a pas un peu de l'un dans l'autre ou de l'autre dans l'autre. Tu sais, Quand tu rencontres une fille, là, OK, puis que vous allez à une première date, ça se passe bien, une deuxième date, troisième date, à un moment donné, il vient sur la table la question du couple. Puis des fois, les filles disent, puis elles ont totalement raison de dire ça, moi, là, si tu me trompes une fois, c'est terminé. Puis là, des fois, tu as envie de dire, ah ouais, mettons, il y a un accident. Non, une fois, je te le dis, là, une
T'allais dire
fois,
un
c'est terminé.
accident.
Ouais, un accident. Ouais, mais là, chérie,
Continue.
comprends-moi, j'étais un peu trop chaud hier soir. Fait que là, c'est pour ça que c'est arrivé.
Mais tu sais, on comprend très bien une
Ouais.
fille où on
Que
peut
la
de
limite
mettre
est
ses
là. Ouais.
limites
Ah, ben,
à une seule
moi,
trahison.
personnellement, c'est ma limite. Moi, mes conjointes que j'ai eues dans ma vie le savent. Hey, si tu me trahis, tu me trompes, ben, malheureusement, je ne serai plus en mesure de t'aimer et ça va être terminé.
Mais en voulant dire que tu explores ta limite auparavant, tu l'as explorée, tu sais qu'elle est là, puis s'il n'y a pas de retour en arrière, si jamais ça se
Exactement.
passe, puis tu veux faire un lien avec ce qui s'est passé au niveau de l'information, Rémi?
Ben, tout à fait. Donc, on a des médias d'information qui nous disent, là, depuis quelques heures, depuis que le directeur général a démissionné, depuis que la directrice de l'information a démissionné, on a BBC qui disent, on va quand même continuer de se battre pour notre réputation, tatati, tatata. Mais si d'un être humain,
Ouais.
on exige la fidélité et qu'au bout d'une seule trahison, on est en droit, dit-on, de partir, ben moi, je m'excuse, mais je pense qu'il y a des gens qui ne croiront plus les médias traditionnels.
Ouais.
Et je ne trouve pas le lien maladroit, parce que quand vous montez, ce n'est pas une erreur qu'ils ont faite, là. Ce n'est pas une erreur. L'erreur est humaine. J'en commets tous les jours des erreurs dans toutes sortes de domaines de ma vie, et tout le monde fait la même chose. Des erreurs, des erreurs, des erreurs. Mais là, c'est un montage. On a trafiqué l'information. Alors, pourquoi on croirait les gens qui nous disent « on le fera plus » ou « d'habitude, on le fait pas » Ben non, là, on vous êtes fait pogner. C'est pas la première fois ou la dernière que vous l'avez fait. Vous vous êtes fait pogner. C'est pas pareil.
Moi, je me suis demandé en entendant ça, Rémi, si c'est pas. Ils sont allés prendre cette vidéo-là ou ce son-là ailleurs, puis ils n'ont pas fait les vérifications nécessaires en disant il fallait qu'ils sortent la nouvelle tout de suite. Puis, tu sais, ça, c'est quand même très problématique. Puis, tu as raison, parce que déjà à la base, les gens ont un grand déficit de confiance par rapport aux médias traditionnels qui est compliqué à manœuvrer. En fait, quand on travaille dans un média traditionnel, ce qu'on fait ici, les gars aussi. Alors, faut vraiment pas tirer, se carrer dans notre propre but. Puis ça, pour moi, c'est tirer dans notre propre but. Puis il faut avoir une décision claire au niveau d'une entreprise à se dire, écoutez, prenons le pas de recul, là, prenons quelques minutes avant, quitte à manquer le scoop de l'année ou quoi que ce soit, pour s'assurer que ce qu'on met en onde, c'est véritable, pour avoir un respect aussi envers nos auditeurs. Et c'est là où, si moi, ils ont créé ce montage-là, je pense qu'il faut le déplorer. Et il faut assurément aussi venir rapidement colmater la problématique si c'est un manque de rigueur. Parce qu'on va être dans des airs de plus en plus complexes, difficiles à surfer. Puis, si tu veux avoir une crédibilité, tu parles de confiance, mais une confiance, ça se bâtit. Mais une fois qu'elle est défaite, c'est extrêmement difficile à aller rechercher. Puis ça, je pense que ça nous guette assurément. Puis c'est bien dangereux et bien triste si ça commence à démolir les médias traditionnels.
Oui, mais ça, c'est une erreur parce que, tu sais, s'ils ont fait un mauvais montage, que ça a passé tous les étages de vérification, puis que c'est allé à la télé, puis qu'après, ah non, ils vont croire qu'on a fait un montage, mais c'est pas ça qui est arrivé, ça serait une erreur. Mais moi, je crois pas que c'est une erreur. Je pense que c'était volontaire de leur part. Et ils ne pensaient pas qu'ils allaient se faire pogner. Et ils se sont fait pogner. Puis, tu sais, depuis des années, on parle de médias traditionnels, de crainte. Moi, je ne vois pas en quoi. C'est une chose si dangereuse que ça que les gens doutent. C'est-à-dire que moi, quand je regarde la télévision, je suis conscient à chaque fois qu'il y a un choix. Il y a un choix de l'image, il y a un choix de l'information, il y a un choix de panéliste, il y a un choix de ton. Est-ce qu'on rit? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Moi, je suis toujours en train de douter. Ça ne veut pas dire que je suis en train d'imaginer des complots tout le temps. C'est que je sais que derrière ces machines-là, les humains. Et les humains ont des sensibilités, ont des valeurs qu'ils préfèrent à d'autres, ils ont des vocations, ils ont des objectifs dans la vie, ils ont des opinions, y compris les journalistes. Et de plus en plus de journalistes que je rencontre et à qui je pose la question, est-ce que tu crois à ça, le journalisme objectif? De plus en plus me répondent non. Et ce sont des gens qui travaillent à Radio-Canada, dans les médias privés, dans des médias indépendants. Donc, ça vient de trois sources différentes. Ces gens-là me disent, non, c'est pas possible d'être objectif. Je choisis quelque chose. Je rappelle les fameuses images de Joe Biden lors de la commémoration du débarquement de Normandie. Il était à prendre une photo avec notamment Giorgia Meloni et d'autres dignitaires étrangers. Et à un moment donné, il s'est éloigné du cadre de la photo, du cadre de la caméra pour aller s'égarer parce que l'homme était malade. Et là, on a eu une récupération des médias traditionnels en disant « Non, mais il est allé parler avec le parachutiste, l'homme ordinaire en train de rentrer. » Mais non, arrêtez les mensonges. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein? On passe à autre chose. Tout le monde a des opinions. Tout le monde a un travail à faire pour avancer ses valeurs, ses principes et son combat. C'est tout. Moi, je l'accepte comme ça. S'il y avait on l'avouait de l'autre côté, mm-hmm. il y avait une transparence, on ne serait pas là en train d'imaginer des complots. Les complots, c'est quand l'un des deux camps dit « Non, on ne fait pas de choix. Non, oui, on est objectif. » Admettez que vous ne l'êtes pas et il ne sera même pas question de complot.
Je me régale en ce moment, je me régale. Je vais faire de l'autopromotion parce que c'est un des sujets favoris d'Antonine Iaccarini et moi. Est-ce qu'on est rendu influencé dans le journalisme? Puis on en a fait un balado complet, duo. Mm-hmm. Vous pouvez aller reprendre ça sur Spotify. Ça a été super, en fait, cette conversation-là. Et je fais partie de celles qui en doutent avec le temps. Je pense qu'on ne sera jamais 100% impartial, même en tant que journaliste. Cependant, là où j'applique un petit peu plus de réflexion personnelle, là, moi, dans ce cas-ci, j'aime ça t'entendre, Rémi, puis tu le sais, j'aime débattre avec toi, j'aime ça jaser d'idées aussi. J'ai moins de capacité à accepter le doute dans des médias, par exemple, qui sont financés par l'État. Si, par exemple, Radio-Canada fait en sorte qu'on vient qu'à douter en tant que public, ça me dérange un peu plus. Moi, je pense que la ligne doit être très, très clair entre un chroniqueur puis un journaliste. Et je m'attends encore que les journalistes, par exemple, dans un reportage, dans un bilan, dans un scrum, soient le plus possible impartial et qu'ils rapportent même les deux côtés de la médaille. Ça s'est probablement perdu à travers les années, mais auparavant, moi, j'aime ça m'asseoir dans un média qui est public puis me dire « Parfait, voici la nouvelle que tu me proposes. Je fais ma propre tête là-dessus. » Quand j'arrive dans un média privé, puis je pense qu'on est rendu dans une ère où il faut quand même déterminer et savoir en tant que public qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public, bien là, je me dis « Parfait, ça se peut qu'il y ait des billets, ça se peut qu'il y ait moins de vision » de neutralité dans leurs nouvelles. Ben, en sachant ça, après, je peux me mettre à douter, puis là, j'arrive dans ton clan, assurément. Là, je dis pas qu'on est dans deux clans différents, je dis juste que j'accepte et je suis totalement d'accord qu'il y a des angles morts, puis en tant que journaliste, tu dois, si tu travailles pour un média public où tu rapportes de la nouvelle et non la critique, constamment connaître tes limites, connaître tes angles morts, savoir d'où tu viens, c'est quoi ton parcours, et ne pas traiter une nouvelle sur laquelle tu es émotif. Refuser de le faire puis de le passer à l'autre si jamais tu le sais que tu as un déficit de neutralité.
Oui, mais la différence peut-être entre toi et moi, Pascal, c'est que moi, je pars du principe que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que toi, tu aimerais un scénario. Moi, j'observe que le scénario...
Pour toi, il n'existe pas.
Il n'est pas en place. Tu sais, Céline Galipeau, il y a deux jours, qui tweet « C'est un vent d'espoir » en parlant de Zoran Mamdani, qui vient d'être élu maire de New York.
Ce n'est pas
pour moi, c'est la preuve mm-hmm. que c'est une chef d'antenne, donc une journaliste, et qu'elle n'est pas impartiale. Mm-hmm. Donc moi, je veux bien rester nostalgique d'une époque où c'était le cas, mais dans les faits, à tous les jours, on a la démonstration que ça n'existe plus, ce journalisme-là, objectif à Radio-Canada. Donc moi, je dis acceptons le réel et partons du principe que ce réel-là, c'est le réel qui est en place.
Puis sais-tu quoi, je trouve ça super intéressant, je trouve ça vrai, mais je déplore, puis je me dis, c'est quoi notre rôle en société? C'est-tu parce qu'on a été attiré vers ce type de façon de traiter la nouvelle?
Ben moi, je pense que c'est juste parce qu'on est des êtres humains.
Non, ça va de
soi. Puis chaque être humain a un billet. Puis moi, je m'en ai rendu compte. J'ai été 2 ans sur le terrain pour Boulevard à côtoyer des journalistes. Puis j'étais capable de dire qui était vraiment pro-tramway dans des conférences, mm-hmm. qui l'était moins. De part, puis pas parce que j'avais parlé avec ces personnes-là, juste de par la façon de formuler leurs questions, la façon de faire leur reportage après. Mm-hmm. Donc, tu sais, tout le monde a un billet. Puis moi, je pense que je suis David Rémy. Il faut juste avouer qu'on a un billet. Faut juste le dire collectivement, j'ai un
mais je
billet.
Le dis, puis dans Duo là, avec Anto, je le nomme. Tu viens de quelque part, Jeff. Tu viens aussi d'une classe économique. Tu as des enjeux qui sont différents de celui ou celle qui n'a pas d'enfant. Clairement. Ton salaire va définir un billet aussi. Tu vas avoir des angles morts. L'affaire, c'est que quand tu es journaliste, moi, je pense que ton devoir, c'est de prendre la feuille de papier, mettons journaliste, mm-hmm. là, public, tiens, puis d'écrire quels sont tes billets. Te connaître assez bien pour connaître tes biais, connaître tes angles morts, puis le plus possible travailler en ce sens-là pour s'assurer que tu ne tombes pas dans cette boîte-là où toi, tu es capable de les identifier. Oui. Mais oui, ça s'est perdu. Oui, c'est plus le cas. Mais va voir des journalistes de la vieille garde. Il y en a encore qui le prônent énormément.
Oui, ça, je suis d'accord avec toi.
Je me rappelle au début là, de ma carrière. Là, ça veut dire, j'ai 31 ans, ça fait 12 ans que je fais ça. En aucun cas, j'aurais pu enregistrer une publicité que mm-hmm. nous, on passe dans un bloc pub. C'était impossible, ne serait-ce l'imaginer.
Parce que je faisais des bulletins de nouvelles. Oui, puis là, s'il arrivait quelque chose à cette entreprise.
J'avais pas le droit de me prononcer, j'avais mm-hmm. pas le droit d'être critique. Mon rôle a changé. Ouais. Je commente maintenant l'actualité. Je ne la livre plus seulement. Mais il y a aussi l'équipe réduite. J'ai travaillé en radio au début, là. On était 7 pour un show. 7.
Alors,
ça veut dire que j'avais une possibilité de rester. T'es neutre, si on
maintenant,
veut.
Rémi est seul à son émission 99.5 de soir.
Il faut se poser ces questions-là aussi.
J'ai un très, très, très bon recherchiste qui s'appelle Alex Lamy.
Mais tu sais, on a-tu encore le luxe? Puis c'est une question super philosophique. On a-tu encore le luxe
non, mais en
dans
effet,
les médias d'être neutre?
T'as raison, parce que tout vient avec les revenus également. Rémi, si on disait tous qu'on avait un billet, qu'est-ce que ça changerait?
Ben, déjà, ça redonnerait confiance à beaucoup de gens. Parce que je l'ai dit tantôt, le fait que certains nient qu'ils n'en ont pas de billet, mm-hmm. ça engendre de la frustration. Vous avez quelqu'un qui vous ment en pleine face. Encore une fois, j'utilise l'exemple des humains. Oublions qu'on parle de journalistes. Prenez quelqu'un, vous le savez qu'il a menti, vous l'avez vu sur caméra voler quelque chose dans votre lunch, là, OK? Puis vous cherchez c'est qui a volé votre lunch au travail. Il vous dit, c'est pas moi, je vous le jure. Le jour où il va vous dire, c'est moi qui le fait. Tout le monde a déjà volé un petit quelque chose dans le frigo, OK? Bien, soudainement, vous allez avoir envie de baisser le ton de la discussion, d'accord? Bon, et en passant, là, juste pour spécifier une chose, on parle tantôt, un petit peu sans la nommer, de Radio-Canada, là,
oh,
parce
oui.
qu'on parle de BBC, puis ici, on en a un service public au Québec. Allez lire le mandat de Radio-Canada, c'est public, OK? Mm-hmm. Pour le mandat de Radio-Canada, c'est écrit qu'il faut faire la promotion de l'unité canadienne, du multiculturalisme. Multiculturalisme, c'est un projet politique en passant. Là.
C'est okay? vrai, t'as raison.
Donc, après, regardez s'il n'y a pas, par exemple, un journaliste qui est plus nationaliste, qui fait un reportage qui parle, par exemple, de la montée du souverainisme au Québec sans parler de multiculturalisme, sans parler d'unité canadienne aussi. C'est aussi simple que ça. Ces journalistes-là, peut-être qu'eux, ils en ont des biais, mais ils travaillent dans une institution qui est dotée d'un mandat particulier et tout le travail de ces journalistes-là doit rentrer dans le mandat. Donc, venez pas me dire que Radio-Canada est objectif. Ils ont un mandat qui ne l'est pas. C'est aussi simple que ça, là.
J'adore Rémi Villemur. Je sais qu'à cette heure-là, il faut te laisser partir parce que tu dois te rendre à la station 99.5 Montréal pour ton excellente émission de fin de journée de 18h à 19h. Mais Rémi, on reprend cette discussion-là,
oui,
c'est sûr. J'ai vu une Pascale s'élever jusqu'au plafond, puis moi, j'adore en jaser. Puis je voudrais justement, oui, quand on va en jaser, du fait qu'on en parle aussi du côté médiatique, puis je suis certain que vous allez être d'accord avec moi. Pourquoi on est toujours à se regarder puis à se dire, c'est toi le pire, c'est toi qui as le plus gros billet? Tu sais, puis là, je vais donner un exemple avec justement un podcast que tu as fait. Pourquoi on regarde Rebel News puis on dit, Rebel News, vous êtes pire que Radio-Canada? Puis les partisans de Rebel News vont dire, non, c'est ceux de Radio-Canada qui sont pires. Alors qu'on devrait juste admettre qu'on a chacun un billet, un à droite, un à gauche.
Ah, puis en passant, j'ai reçu Alexandra Lavoie de Rebel News et j'essaye, je bombarde les boîtes de réception de journalistes de Radio-Canada. J'attends qu'ils répondent à mon appel.
Ouais, c'est ça. Et pourquoi ici, là, je le mets plus à la région de Québec, mais pourquoi ici, il y a des stations de radio qui se permettent de dire « Le Journal de Québec fait en promotion de Bruno Marchand », mais on n'a pas le droit de dire à ces stations de radio-là qu'ils font en promotion de Stéphane Lachance. Donc, on reprend cette discussion-là, c'est sûr.
Merci. Bye-bye.
Salut Rémi Villemur, merci. Hey, c'est le fun,
j'adore parler avec Rémi parce qu'à chaque fois, il arrive avec des sujets, je trouve, de société qui m'animent.
Ben oui, clairement.
C'est des questionnements qui sont importants, c'est des débats importants, c'est des prises d'idées, des réflexions. Je trouve ça vraiment le fun. Puis ça veut pas dire... En fait, je pense que son segment s'appelle « Pourquoi ne pas être en désaccord? Pourquoi pas mijoter là-dessus? » Il n'y a même pas de « t'es-tu pour ou t'es contre? »
Non.
On discute.
Exactement. Discutons. Ça fait vraiment du bien, Rémi Villemur, que vous pouvez entendre au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h et les samedis matins de 8h à 10h. Parce qu'avant qu'on passe à notre invité, Gabriel Giguère, après la pause, qui va nous parler de cette vision économique de la CAQ.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a à retenir dans l'actualité? Puis après ça, moi, j'ai une petite surprise pour toi.
Oui, bien, la fermeture officielle du district, en fait, sur Saint-Joseph, c'est officiellement annoncé sur la page Facebook de l'entreprise. Alors, c'est terminé après 10 ans d'activité. On avait des discussions, des réflexions par rapport au beau, puis on s'est dit, ben tant qu'à ça, c'est terminé. Alors, pour le district Saint-Joseph, une autre institution, disons-le,
ben oui.
Plus jeune, cependant, de Saint-Joseph qui ferme, vu tout le contexte qu'on retrouve là, dans le quartier aussi, le contexte économique,
très
etc.
Triste.
Il y a une nouvelle sur laquelle je ne peux pas passer rapidement, c'est les nouvelles accusations pour les présumés terroristes de Québec. Donc, ça vient de sortir, la poursuite passe en vitesse supérieure dans le dossier des présumés terroristes de Québec. Je vous rappelle le trio qui est cité directement à procès. On évite donc quelques étapes judiciaires, en plus d'accumuler les chefs d'accusation. Ça a été déposé par la Couronne fédérale ce matin, en avant-midi, en fait. Procédure réservée à la poursuite. Ça, c'est utilisé quand l'intérêt public le justifie. Ça envoie directement le dossier à la Cour supérieure. On passe l'étape de l'enquête préliminaire, une étape qui, normalement, ça précède le procès, là, puis ça permet d'étaler la preuve une première fois, puis d'effectuer des interrogatoires. Marc Aurel Chabot, 24 ans, Raphaël Lagacé, 25 ans, Simon Angers-Audet, 24 ans, ont déjà été choisis pour tenir un procès devant juré. L'enquête préliminaire, ça, c'est prévu au mois de janvier. C'est pour 2 semaines. Ça a été donc annulé, puis les parties vont devoir prévoir des dates de procès dès maintenant. Donc, le dossier va revenir devant la Cour au début du mois de décembre. Ça va faire en sorte d'accélérer énormément les choses. On prévoit déjà plus de 2 semaines pour tenir le débat. Je vous rappelle l'accusation, grave accusation duquel le trio fait face, c'est d'avoir facilité une activité terroriste. Les jeunes, rappelez-vous, menaçaient de prendre par la force un territoire de la ZEC Batiscan, ouais. Nelson pour y vivre en marge de la société. Ça, c'est la théorie de la poursuite. Il faisait partie du groupe Hide and Stalk, H&S, dont le leader serait Chabot. Il était prêt à utiliser la force pour défendre leur cause. Il espérait l'effondrement de l'État. Les membres sont considérés comme des militants extrémistes pro-armes par les autorités. Nouvelles accusations, de même aujourd'hui en salle d'audience, qui se sont faites. Donc, nouvelles accusations qui ont été déposées contre Chabot, Lagacé et Angers-Audet. Sont maintenant accusés d'avoir eu en leur possession des biens dans l'intention de les utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés directement ou non, en tout ou en partie pour une activité terroriste ou pour la facilité, à savoir des armes à feu, des dispositifs prohibés, des grenades fumigènes et de la marchandise contrôlée. Permettez-moi de vous dire, si vous avez perdu le fil, c'est vraiment une accusation qui tire partout pour être sûr de ne pas oublier un terme, une arme ou une façon de le dire pour le procès. Marc-Aurel Chabot fait quant à lui face à une rare accusation. On parle d'avoir sciemment chargé directement ou indirectement des personnes, à savoir Simon Angers-Audet, Raphaël Lagacé ou des personnes reliées au groupe Hide and Stalk, de se livrer à une activité au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste ou en association avec lui dans le but d'accroître la capacité d'un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. Permettez-moi, avec mon petit background, de vous dire qu'on veut... On est sûrement au courant de certaines choses. On a constaté des choses, puis on veut se donner toute la marge de manœuvre pour au moins
exactement.
Les faire accuser.
On garde ça le plus
coupable.
Ouvert possible pour par la suite arriver avec des chefs d'accusation plus précis. Et je tiens à saluer l'excellent travail des journalistes d'enquête de JE qui, à la suite justement de ces arrestations-là, ont fait un excellent reportage sur comment c'était facile de sortir des armes de Valcartier et là, souhaiter justement qu'on ait pris les mesures là-bas pour ne pas que des choses comme ça se reproduisent, parce que c'est très terrorisant ce qu'on lit de plus en plus avec cette histoire-là. Là.
Oui, puis pour le quatrième homme, hein, on en avait parlé, il avait été arrêté au terme de cette grande enquête-là, Matthew Forbes. Oui. On prévoit régler le dossier assez rapidement, donc à la fin du mois de novembre, en plaidant coupable. Mm-hmm. Donc, c'est lui qui serait aussi membre du groupe Hide and Stalk, puis il fait face à une criolle d'accusations. Ça concerne possession, partage d'armes, explosifs, munitions. Il n'est pas accusé de terrorisme pour sa part. C'est un militaire actif. Donc, au moment des faits reprochés, il était à la base militaire de Valcartier. 33 ans, il est en liberté pendant les procédures judiciaires, contrairement à ses 3 complices.
Une petite dernière avant les sports.
Oui, celle-ci, je la voyais quand même très importante, alors j'ai pris du temps. Mais Legault veut prioriser 9 projets en défense de 11 à 16 milliards de dollars. Ça me permet quand même de le redire, c'est la nouvelle d'aujourd'hui pour le gouvernement Legault. On a soumis à Ottawa une liste de 9 projets d'investissement en défense sur sol québécois pour qu'ils soient priorisés par le fédéral.
Hier, Pascal, je me suis endormi en écoutant ce match-là.
The game on either side. Shoulder pump fake. End zone. It is caught for the touchdown. Devontae Smith.
Imagine-toi donc, c'était 0-0 à demi entre les Eagles et les Packers. Hey, c'était un match somnifère. Finalement, victoire des Eagles 10-7.
Somnifère.
Je vous ai présenté le toucher de Devonta Smith, l'excellent receveur de passe des Eagles de Philadelphie. Donc, les Eagles qui gagnent un troisième match consécutif. Par contre, Pascal, je me suis réveillé avec cette chanson-là.
Oh!
Pour ceux qui suivent la lutte.
Deux faux dollars à la première personne qui me dit c'est quoi ça au 88-971-1021.
Parce que là, il est arrivé quelque chose d'exceptionnel, Pascal, avec ce lutteur-là hier.
Okay.
C'est sa tournée d'adieu. OK?
Après plusieurs années, quand même.
Oui, exactement. Ça fait un peu plus de 20 ans qu'il fait de la lutte professionnelle. Bon, là, ponctué, t'es en alternance avec une carrière d'acteur.
Exactement. Bravo, John Cena. Oui, William, tu as un faux 2 $.
Et voilà, donc, John Cena. Et là, hier, c'était sa dernière fois qu'il était dans sa ville natale de Boston.
OK, donc c'est un peu émotif.
Boston, Massachusetts. Et là, ça a commencé avec un hommage pour lui. Triple H, le haut dirigeant de la WWE, qui était là pour lui faire un hommage. Et là, Dominic Mysterio, qui est un lutteur méchant, est arrivé sur le ring. Puis là, il a dit à John Cena, débarrasse de là, c'est mon ring maintenant, t'es un vieux. Puis là, finalement, Triple H a dit, ah ouais, Dominic Mysterio, tu manques de respect de même contre John Cena. Ben, avoir un combat tout de suite pour ta ceinture. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dominic Mysterio avait la ceinture intercontinentale.
OK.
Et c'est la seule ceinture que John Cena n'avait jamais gagnée dans sa carrière.
Puis là, ça sortait de nulle part qu'on les faisait combattre
en plein ça. Et voici ce qui est arrivé à la fin du combat.
Frog Splash! Still, Cena rolls right through with Dirty Dom in hand. AA for the win.
Ho ho!
John Cena est le nouveau champion intercontinental de la WWE. Ça fait de lui le Grand Slam champion, le champion du Grand Slam parce qu'il aura eu tous les ceintures dans sa carrière.
J'ai failli saigner du nez. Est-ce que c'est le seul à avoir eu toutes les ceintures?
Non, il y a plusieurs lutteurs qui l'ont réussi. Donc, c'est pour ça, lui, il ne l'avait jamais réussi. C'est pour ça qu'on lui a fait gagner. Notamment, le Québécois Kevin Owens est un Grand Slam champion. Donc, c'est assez exceptionnel. Et là, si je te parle de ça, c'est parce que, Pascal, il faut inviter nos auditeurs au Centre Horizon. Nous autres, on a quelque chose
oui.
qui se produit là. Hein?
C'est le 21 novembre.
Oui, hein?
Il faut réserver sa date. Il faut réserver son temps. Il faut réserver un petit 20 $ là, pour participer parce que
exactement.
C'est la reprise du tournoi Luttons contre la faim, en fait.
Puis pensez que la bière est à 3$, la PAPS.
Oui, puis tout le monde va être là parce qu'on est en train même d'éviter le politique, mais en fait, c'est parce qu'on veut se mobiliser tout le monde ensemble pour la bouchée généreuse.
Hey, 67 600 paniers alimentaires distribués chaque année. 5 000 personnes nourries de façon hebdomadaire, dont 37 % sont des enfants, jusqu'à 1 600 familles aidées chaque semaine uniquement que la banque alimentaire. C'est ça, la bouchée généreuse. Fait que ça vaut un petit 20$. Hein? Tu investis un petit 20, tu vas prendre une coupe de beers puis la vie est belle.
Puis tous les profits vont à la bouchée généreuse. Puis dans le ring, t'as Yannick Marceau, entre autres, qui va lutter contre Virginie Gagnon.
Exactement, Virginie Gagnon, collègue de TVA. Yannick Marceau va se battre avec Stephen Sullivan, son adversaire de l'an passé, le champion de la NSPW, Michel Plante. Ils vont faire face à Nightmare Manson, Aiden Bright. Tu l'as nommé Virginie Gagnon. Antonine Iaccarini du caucus est dans le coin de Marceau. Denis Gravel est dans le coin des méchants.
Ouais.
Alors, achetez vos billets en grand nombre au pointdevente.com, section NSPW. Allez vous prémunir de ces billets-là à 25 $ seulement. C'est le 21 novembre, 20h, au Centre Horizon. Pascal, on fait une courte pause et par la suite, on parle avec Gabriel Giguère de cette vision économique de la CAQ. Puis je vais te faire jouer un petit extrait parce que Frédéric Beauchemin, des libéraux, ce matin, dans Marceau le matin, il a laissé aller une phrase assez choc. OK? Je te laisse...
Ah, c'est ce que j'ai entendu tantôt. Hein?
Ouais, c'est ça. Je te laisse découvrir ça tout à l'heure. Alors, vous êtes à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Il est présentement 13h45. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase avec Jeff Fortin, Pascal CV. Cette émission tire déjà à sa fin. Pascal, au sport, je rajoute que le Canadien de Montréal reçoit les Kings de Los Angeles ce soir. Le Canadien a déjà 10 victoires depuis le début de la saison en 15 matchs. Et Nick Suzuki, l'homme de fer du Canadien qui n'a pas raté de match depuis deux saisons, va être à son poste malgré une blessure au pied droit. Et on va rejoindre immédiatement Gabriel Giguère, analyste politique senior de l'Institut économique de Montréal. Gab, c'est-tu la folie canadienne à Montréal?
Ben, c'est une bonne question. Moi, j'habite. En plus, je travaille tout proche du Sandbell.
Ouais.
On le voit tout le temps. Là, je pense qu'après, avant de partir, là, je vais croiser la gang. Là, mais ça va bien, là, du côté du Canadien.
On est heureux du côté des partisans de la Sainte Flanelle. On les a déjà appelés les glorieux, le tricolore. Bref, on est très heureux. Gab, avant de te parler, de te faire parler sur la vision économique de François Legault, je veux te faire entendre Frédéric Beauchemin ce matin sur nos ondes dans Marceau le matin. Et par la suite, on parle de sa déclaration choc.
Un, deux, c'est sûr et certain que si on rend la fiscalité plus optimale pour nos entreprises, elles vont avoir plus d'argent pour pouvoir investir dans leur modèle d'affaires et donc devenir peut-être plus productive, qui est l'objectif ultime en arrière de tout ça. C'est ça l'enjeu. Avec la CAQ, on a eu zéro gain de productivité depuis 7 ans. Zéro, là. Pendant que les États-Unis, les autres ont fait des gains énormes en productivité. Donc, on se doit de faire en sorte que nos entreprises puissent investir dans leur modèle d'affaires pour qu'elles puissent être plus compétitives. Et à ce moment-là, ben, elles vont avoir la meilleure technologie. Peut-être qu'elles vont optimiser leur chaîne de montage. Je ne sais pas exactement ça va être quoi les résultats nets pour chacune des entreprises qu'on a au Québec, mais l'objectif ici, c'est de mieux les équiper et encore une fois, de donner des chances à tous de pouvoir gagner. C'est ça le rôle du gouvernement, pas d'intervenir à la mongole comme François Legault. Là.
Gab, intervenir à la mongole comme François Legault, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration choc de Frédéric Beauchemin?
Ben, je pense que c'est assez clair qu'avec le plan là, du gouvernement Legault qui a été déposé hier dans sa vision économique ultra-interventionniste, là, tu sais, ça va partout là, dans les médias pour expliquer que lui, c'est un gouvernement résolument interventionniste. Je pense qu'on a l'impression que le premier ministre s'est trompé d'emploi. Là. On pense qu'il a peut-être soumis le CV pour être un banquier d'investissement, mais en réalité, on est premier ministre. Donc, il faut juste revenir sur terre à cet égard-là. Puis, effectivement, quand Frédéric Beauchemin explique qu'il faut davantage miser sur la fiscalité puis être plus attractif, compétitif sur le marché nord-américain quand on se compare aux autres États ou aux autres provinces, ben c'est là-dessus qu'on devrait se forcer. On devrait pas commencer à aller dans l'espace public puis nous dire, écoutez, chers Québécois et Québécoises, nous, on vient d'échouer complètement pour la filière batterie. Là. C'est un flop total. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la Caisse de dépôt et placement du Québec. Fait que ça, très concrètement, c'est nos retraites, c'est le bas de laine, là, c'est le régime des rentes du Québec. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le niveau d'interventionnisme de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans l'économie québécoise. Fait que nous, on va choisir pas mal les secteurs qui vont être développés. Puis votre argent à nous, notre argent plutôt, va servir à financer ces projets-là. Fait que là, ça commence à être un petit peu particulier. Là, on commence à tirer d'un côté le bas de laine des Québécois vers une vision dirigiste de l'économie plutôt qu'une vision qui était également au fondement de la création de la Caisse des dépôts et placements du Québec, qui est plutôt de dire ben, on va aussi gérer avec prudence. On n'est pas un gouvernement qui est prudent à Québec. On est un gouvernement qui est dépensé puis qui pense qu'il va gérer l'économie. Je pense que c'est dangereux. Puis de toute façon, on l'a vu dans les dernières années. C'est dangereux, un gouvernement qui pense ça. C'est des centaines de millions qui ont été dilapidés dans la filière batterie et on renchérit, on n'apprend vraiment pas de nos erreurs du côté du gouvernement Legault.
Mini parenthèse dans tout ça, c'est fascinant de voir à quel point quand tu choisis tes mots, c'est important le politique parce que toi, Gab, tu viens de parler du contenu, mais pour beaucoup, ils ont arrêté leur réflexion au contenant parce qu'on a dit une façon de faire mongole ou je sais pas comment les termes exacts, mais la prise de parole s'est arrêtée à quel mot on a choisi. Puis en politique, ça aussi, c'est important. Puis François Legault a été souvent sauvé par justement le caractère un petit peu plus bouillant des oppositions ou encore des frasques politiques. Puis il s'en est sorti, en fait, à ne pas devoir expliquer ses projets politiques ou encore sa façon de se positionner par le fait que les opposants n'utilisaient pas les bons mots ou la bonne façon de s'y prendre.
C'est totalement vrai, Pascal, puis je pense que c'est là la grande différence entre le théâtre politique auquel on peut voir l'ensemble des partis politiques, hein, les députés et autres, mais également les analystes de politique publique où l'objectif, c'est vraiment de dire « il est où le bobo dans les mesures qui est mis de l'avant ». Tu sais, quand on regarde à l'échelle du Québec depuis l'arrivée de François Legault, puis ça, là, le problème, c'est qu'on se vante de ça. T'sais, on se dit pas, on se vante du fait que plus $1 sur $4 qui a été investi au Québec dans les 17 régions administratives du Québec provient d'argent publique, comme si le gouvernement permettait de développer l'économie. Je pense que c'est extrêmement clair, là. On l'a vu dans les dernières années que c'est pas ça, quand on avait notre pseudo-super ministre Fitzgibbon qui allait à la fois pousser l'économie et l'énergie. Ben aujourd'hui, on a perdu des centaines de millions de dollars, puis on n'a toujours pas de nouveau projet de loi en matière d'énergie. Ouais. Donc, l'humilité, elle n'existe pas au sein de ce gouvernement-là. Ça, c'est les économistes, ça fait des décennies qu'ils en parlent. J'irais jusqu'à dire des siècles qu'on pourrait retourner en France dans les années 1800. On le fera pas, là, mais juste pour comprendre que cette idée-là du gouvernement qui est pas capable de bien prendre les décisions, c'est le marché. Donc, les consommateurs comme vous, moi, les auditeurs qui choisissons, c'est central. Mais le gouvernement manque encore une fois une excellente occasion de dire « J'ai appris de mes erreurs, ma dernière année de mandat, ça va être de mettre de l'avant une réduction de l'imposition sur les entreprises. Aujourd'hui, au Québec, c'est environ 11 % si on coupe toutes les subventions au Québec. Puis, en parallèle à ça, on réduit l'imposition. Le Québec est la place sur le plan fiscal pour les entreprises le plus concurrentiel en Amérique du Nord. Tu sais, il faut juste penser à ça, là. Ça serait incroyable, mais le gouvernement Legault décide que c'est lui qui va tout gérer en économie et on verra les résultats.
Puis en plus, il profite d'un cadeau fédéral avec son plan militaire, mais un cadeau qu'on ne sait pas encore de quel ordre on va pouvoir justement toucher ici au Québec. Et notre seule vision économique, c'est de développer Hydro-Québec. Donc, Gab, c'est de plus en plus décourageant de voir à quel point on n'a aucune vision entrepreneuriale du Québec.
C'est ça le problème. Je pense que tu viens de mettre le doigt dessus, Jeff. La question entrepreneuriale, de comprendre que la richesse créée provient des entrepreneurs. Ça, c'est complètement évincé. On pense que le point central du développement économique est le gouvernement. On se trompe. On s'est trompé et on se trompera encore avec le gouvernement. Il faut juste prendre un pas de recul. On parle de la filière batterie parce que c'est quand même le secteur chaud où on nous expliquait que le Québec allait devenir les poumons verts de l'Amérique du Nord, puis la place centrale, finalement, on le voit bien que c'est un flop. Mais c'était la même chose auparavant quand on pense à des choses comme la Gaspésie aussi. On a eu des grands projets où on a dilapidé des fonds publics. Et ce qui me fait peur, c'est de renchérir et de nous expliquer que pour 2030, il va y avoir un objectif, ce qu'on appelle plus ambitieux, mais un peu plus space, un peu plus intense de la part du gouvernement concernant les investissements du bas de laine québécois pour les entreprises québécoises. Et ça, si ça se fait trop, si on surpolitise le bas de laine, ben ça va devenir spéculatif. Puis je pense que très concrètement, on ne veut pas jouer nos retraites avec le vent Legault qui décide que whoop, ça va être ce secteur-là, puis un an après, quand ça va être un flop, ça va être un autre secteur. Je pense qu'il faut être plus sérieux et plus prudent.
Non, je ne jouerai pas ma retraite avec la moyenne au bâton de François Legault. C'est clair et certain, Gabriel Giguère. Gab Giguère, on va avoir la chance de se reparler de ce sujet là, c'est certain, parce que ça va faire la manchette à plusieurs niveaux en courant d'année, et c'est sûr qu'on va surveiller de très près avec toi. Là, on approche la campagne électorale. Ça va être le fun de regarder qu'est-ce que les autres partis proposent également.
On a hâte de voir ça. Ça va s'en venir bientôt.
Et voilà. Merci beaucoup, mon ami. Tu sais comment, tu es toujours un collaborateur précieux pour cette belle émission d'En Jase sur les ondes de Boulevard 101.
Toujours apprécié. Bonne journée.
Salut, Gab. Merci beaucoup. C'était Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Pascal, c'est déjà la fin.
C'est déjà la fin.
Ça passe trop vite, 2 heures.
Écoute, moi, je serais partie sur... Pensez-vous que François Legault avait une autre façon de faire, économiquement parlant, que celle qu'il avait avant la pandémie? Puis depuis la pandémie, tout a déstructuré son plan, puis il n'était pas assez compétent, peut-être avec son équipe pour la suite des choses.
Souviens-toi, François Legault, c'est lui-même qui a écrit un livre pour développer le Saint-Laurent avec notamment de l'extraction de gaz naturel.
Ben oui! Écoute,
on est loin d'être là, hein?
On a fini l'émission, mais au moins, je pourrais rappeler que si vous voulez aider votre communauté aujourd'hui, allez manger de la poutine à la fromagerie Victoria. 2 $ par poutine, peu importe les formats et la sorte, qui vont directement au centre des familles du côté de Valcartier pour nos militaires en ce jour du souvenir.
J'aime pas ce qui m'arrive à l'heure actuelle. Je vais aller courir, puis là, j'ai le goût d'une poutine. OK!
Go pour une bonne cause.
On se parle demain. C'est le retour de Gravel qui se fait avec Denis Hébéreau. Et nous, c'est demain à midi qu'on reprend l'antenne dans l'émission On en jase. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. À demain, la gang. On en jase.